lights out. And away we go for one more time in 2012. Great start from Hamilton. The first start from Vettel ahead of two Red Bull. Fernando Alonso goes round the outside of Sebastian Vettel. Has already lost places, getting caught in the outside on the inside. Hamilton squirms away from Nasser and Jensen by Fernando Alonso, challenging Sebastian Vettel. Hamilton right up front, down the metal cutter towards the speed over Lago. It was the cautious start for the championship leader.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix du Canada. Pour m'accompagner comme chaque semaine, bonsoir Dino. Oui, je dis bonsoir et vous allez comprendre pourquoi.
Bonsoir, je dis. Ça dépend, pour certains de nos auditeurs, c'est le milieu de l'après-midi. À la limite, le début de soirée.
Ah, c'est toujours le jour.
Voilà, il a trahi son identité.
Voilà, en 3 secondes, vous avez compris pourquoi cette émission est spéciale.
On a réussi, on a un invité canadien. Oui. Il insiste, il est canadien, il est pas québécois. Parce que les Québécois, ça pue des pieds, c'est de la moustache. Voilà, les Canadiens, c'est sophistiqué, c'est classe. Et donc ce soir, nous recevons Burt.
Bonsoir, Burt.
Burt.
Bonsoir.
Burt. Chaque fois que je dis Burt, j'ai l'impression Burt. En fait, non, c'est Burt. Pas comme dans Burt, quoi, mais Burt.
Bah, Burt, quoi.
Oui, mais pas comme Burt Lancaster.
Oui, sinon tu peux faire.
Plus comme.
Tu peux faire en bon français, Burt.
Oui, ou Burt. Est-ce que tu as des grands pieds, Burt?
Oh, plus ou moins.
Je crois qu'en termes de kilomètres, ça bat notre ancien record qui était de la Réunion.
Sincèrement, je pense qu'il y a match. Mais bon, sincèrement, la Réunion, bah, c'est pourri. Alors que le Canada, je suis désolé, mais ça pète.
Le Canada, ça nous fait toujours un peu rêver, le Canada.
Ouais. Puis ils ont un grand prix. Alors que la Réunion, le grand prix de la Réunion.
On l'a pour l'instant.
Donc merci Burt d'avoir répondu à notre appel, hein. On avait envoyé un appel. Vous savez, Burt, c'est ce Canadien qui soutient Jacques Neuve, enfin, qui nous envoie des mails après les grands prix. Oh, c'est dur.
vous avez pas tort. Oui, il fait des fautes. Il en a fait pendant 6 ans chez Burr, mais il est plus drôle à écouter. Puis,
Il était drôle à voir conduire quand même.
Oh oui, ça aussi. Surtout de reculons en montant au rouge.
Ah, nostalgique, tu nous tiens.
Alors messieurs, comme d'habitude, qu'avez-vous pensé de cette course?
Oh, moi, je l'ai trouvé un petit peu long. Heureusement, on n'a pas eu trop de problèmes avec les pneus.
Non, on peut dire, cette semaine, ils sont allés à fond, hein, contrairement aux précédentes semaines.
En effet, ça se peut que le nouveau contrat pour les pneus, ils vont dire, mais on veut ça comme le Canada en 2013.
Oui, c'est ça, c'est que tous les ans, ils disent, on veut comme le Canada. Sauf que là, visiblement, non, pas comme le Canada. Non.
Oui, voilà.
Parce qu'en fait, ils ont pas compris. À chaque fois, ils veulent comme le Canada. Sauf que comme il pleut tout le temps au Canada, il y a toujours des tonnes d'arrêts, ils ont pas compris.
Mais c'est vrai, voilà, une course qui était pas extraordinaire, mais qui était pas ennuyeuse quand même. Il s'est passé plein de choses.
Une course rapide, je trouve. Enfin, rapide au sens où, j'ai trouvé que les écarts se creusaient vite.
Oui, surtout que... une personne, grâce, oui.
Non mais un peu tout le monde, enfin, j'étais surpris en fait par les écarts, à chaque fois. C'est vrai que c'est typiquement pas le genre de course qu'on est habitué à voir cette année. Là c'était assez fluide, assez linéaire et moi j'ai trouvé cette course très agréable. Franchement très agréable à regarder.
Un peu comme toujours au Canada.
Oui, il y a pas eu de safety car, il y a pas trop de personnes qui se sont rentrées dans les murs, donc très peu même de drapeaux jaunes.
Non, il y en a un qui aurait mieux fait d'éviter de rentrer dans un mur. Ça aurait évité à des cerfs d'aller sur la piste. Mais bon.
Ouais.
Messieurs, vous le savez, cette course a eu lieu le 9 juillet. C'était hier. Oui, on enregistre lundi, c'est pour ça. Et comme chaque Grand Prix, nous allons nous demander, mais Shinji, qu'est-ce qui s'est donc passé un 9 juin ?
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Et cette semaine, dans l'éphéméride, le chiffre, écoutez-le bien, est 3578.
À ton honneur, Burt.
J'ai eu le 2200 quelque chose du premier coup, mais 3500, on va commencer à une mesure.
Oui, c'est une unité de mesure, sens large.
Cette unité de mesure, tu as dit, on peut le dire, donc c'est pas une unité de mesure au sens où nous on l'entendrait.
Si, quand même, oui.
Mais c'est pas une unité de mesure en mètres, par exemple.
Oui, voilà.
C'est pas une unité de mesure de distance.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, surtout, c'est pas une unité de distance.
Une unité de mesure temporelle ?
Tout à fait.
Ah, donc c'est des 3600 quelques secondes ?
Ah non.
Heure ?
Ah non.
Minute ?
Ah non.
années-lumière.
Ah non.
C'est la durée de mon plus long monologue en années-lumière. Ouais.
Non, parce que ton plus long monologue en années-lumière est encore plus long que ça.
Donc t'as 3500...
3578.
Alors c'est une unité de temps.
Oui.
C'est une unité de temps qu'on utilise au quotidien.
Oui, tu peux le dire, oui, tout à fait. C'est oui.
C'est l'invention du monde, un 9
non,
fois.
Non, c'est... Mais le pire, c'est que l'unité est toute conne, hein. C'est pas... Ça n'a rien d'extraordinaire.
Bah, j'ai 10 minutes, secondes, heures, jours.
Oui.
Ah, c'est 3566 jours.
Mmh. Ah. Donc, 9 ans, quelques...
Pour être précis, 9 ans, 9 mois et 18 jours.
C'est la durée d'un voyage.
Il y a une notion de voyage, mais ça n'est pas un voyage.
C'est une somme de plusieurs durées.
Ah non, non, c'est une seule durée en continu.
C'est-tu la durée de la carrière de Jacques Villeneuve?
Je crois qu'elle est plus courte que ça. La vraie carrière, hein. Je veux dire, celle où il était au top niveau. Hein. On est bien d'accord que quand il était chez Sauber ou Renault, hein, c'est pas...
Bah, ça a duré 365 jours, non? Sa vraie carrière.
Ah, 2 ans. Si, 2 ans.
Et encore, je vois là.
Non, 2 ans, quand même.
Ah oui, 2 ans. Ouais, c'est vrai. Bah, la deuxième année, c'est un accident. Voyons. Alors, le 9 juin, c'est le dernier jour ou le premier jour?
Alors, le 9 juin, c'est plus un prétexte. En fait, c'est le jour de sortie d'un film qui raconte ce dont est le sujet de l'éphéméride.
Ah.
Je précise, en France, j'ai cherché la date de sortie au Canada, je ne l'ai pas trouvée. Mais j'ai cherché.
C'est un film récent?
Oui, de 2009.
Donc, c'est un film qui s'est déroulé pendant 9 ans?
Oui, plus ou moins, ouais.
2009.
Ça n'est pas un film apparemment extrêmement connu, même si j'ai vu qu'il avait d'assez bonnes notes parmi ceux qui l'avaient vu. Hein.
Est-ce que ce qui s'est passé pendant ces 9 ans, c'est d'ordre politique?
Oh non.
C'est d'ordre sportif?
Non.
D'ordre culturel?
Non.
D'ordre intime?
Oh, oui, on pourrait dire d'ordre intime.
Donc c'est une histoire personnelle qui a duré 9 ans.
Oui, on peut dire ça d'une certaine façon.
Ce sont les aventures de Ricky Bobby.
Non.
Est-ce que c'est un film qui a le même titre en français qu'en canadien?
Quasiment.
Genre ce serait Braveheart en français et Cœur brave en canadien.
Bah, pour tout dire, c'est quelque chose en français et le titre apparemment canadien qui est le même que le titre américain, parce que c'est un film américain, c'est le titre français avec un petit truc en anglais derrière.
Okay.
Oui, ça va pas vous parler. Mais je suis pas sûr que le film, d'aller sur le film, ça vous aide plus que ça.
Donc c'est un événement connu mondialement? Enfin, c'est quelque chose qui s'est passé pendant 9 ans, qui est connu mondialement?
Mondialement, je dirais pas, non.
Connu d'un certain groupe de personnes?
Dans le monde, oui. Dans un pays en particulier, ça doit être connu par tout le monde.
C'est pas la France?
C'est pas la France.
Pas le Canada?
C'est pas le Canada.
Ah, c'est l'Italie?
Non.
Je sais pas, j'ai un instinct que ça, c'est l'Italie. C'est l'Italie.
Ça te ferait tout plaisir.
Donc, c'est vraiment identifié à une région du globe?
Ah oui, un pays même.
Un pays.
Enfin, c'est une histoire, voilà, qui est connue dans son pays et qui est connue aussi hors de son pays, que voilà, les choses se transmettent partout dans le monde.
Est-ce que la personne qui a vécu cette histoire-là, est-ce que cette personne-là a vécu une incarcération?
Non.
Non. Ok, c'est pas ça. Ça raconte l'histoire d'un personnage connu.
Non, le personnage n'est pas spécialement connu. Enfin, dans le pays où ça concerne, je pense qu'il est connu.
Et c'est un personnage réel?
Ah oui, c'est une histoire vraie.
Bah, Bert, je crois que je t'ai donné tous les éléments pour puisse répondre.
Merci.
Donc, je te laisse poser des questions. Moi, je renonce.
Par contre, attention à la notion de personne. Il y a une personne qui est concernée, mais pas seulement.
Il s'agit d'un accident, un désastre?
Il y a un événement triste dans cette histoire, mais ça n'est pas un désastre.
Bon, c'est pas le Roi Lion, tu nous l'as déjà fait, ça.
C'est pas une histoire vraie, le Roi Lion, tu sais.
Oh non?
Oui, c'est vrai. Shinji, c'est vrai. Non, mais allô, quoi. C'est vrai. Le Roi Lion.
L'événement, c'est passé en Europe ou en Amérique du Nord ou... non, en Europe, qu'on
pas
a
en
dit.
Pas en Europe, pas en Amérique du Nord, pas en Afrique.
En Asie.
En Asie.
L'histoire qui se passe en Asie. En Inde?
Non.
Ce serait un film japonais qui est sorti.
Dans le truc, il y a un film japonais aussi dans toute l'histoire. Et c'est au Japon, en effet. Mais le film de 2009, c'est un film américain. Qui est le remake, en fait, du film japonais. Donc, vous l'avez compris, c'est une histoire qui se passe au Japon.
Godzilla.
Non, c'est pareil. Godzilla, c'est comme le Roi Lion.
C'est pas vraiment arrivé.
Non,
Godzilla.
C'est pas vraiment arrivé.
Est-ce qu'on parle d'un remake du Magnificent Seven?
Non. D'ailleurs, c'est une histoire qui s'est passée au 20e siècle. Ça se passe entre les années 20 et les années 30. L'histoire d'origine, qui est une histoire vraie.
Ah, c'est Pearl Harbor?
Non.
Non, ça c'est 41.
Attends, années 20.
Ça fait pas partie de la grande histoire, hein. C'est une histoire qui est connue parce que c'est une histoire un peu extraordinaire. Mais les personnages en eux-mêmes sont pas connus.
Un film sorti en 2009. C'est un film qui a reçu des prix dans les festivals?
Non, pas. Je te dis, c'est pas forcément un grand film connu.
Années 20, années 30. Une histoire qui a duré 9 ans. 2009. C'est de 2009, c'est un film américain?
Oui, 2009, c'est un film américain, un remake en fait d'un film japonais de 1987 qui raconte cette fameuse histoire qui a eu lieu dans les années 30.
Parfait, grande star américaine, bien.
Il y a une personne connue dans le film américain.
Une star qui aurait fait un truc genre d'émission impossible.
Ah non.
Ah merde, c'est pas le dernier samouraï.
Mais ça se passe pas dans les années 20, le dernier samouraï.
Mais justement, c'est ça qui m'étonnait, mais attends, je dis, moi j'essaie de trouver.
Allez, je vous donne un indice, le film, hein, il y a Richard Gere dedans. Là, je me rends compte que ça vous aide pas plus que ça.
Richard Gere, c'est Richard Gere au Japon, dans les années 20.
Alors, le remake, quand même, ne se passe pas dans les années 20. Je suis même pas sûr qu'il se passe au Japon.
Il était le Bouddha?
Non. Mais le problème, c'est que tu pars sur le film, tu essaies de chercher le film pour trouver l'histoire. Tu aurais beaucoup plus de réponses si tu me posais des questions sur c'est quoi cette histoire?
C'est une histoire personnelle. Oui. C'est une histoire d'amour?
Non.
C'est une histoire de frère?
Pas de frère, non.
De sœur?
Non. C'est pas une histoire entre humains réellement. Il y a un animal.
C'est une histoire avec un animal.
Tu vois, ça avance beaucoup plus vite quand vous cherchez sur l'histoire.
Donc c'est un film avec un animal?
Ah oui, c'est une histoire avec un animal.
L'animal est-il décédé? Ben, il est décédé éventuellement, oui.
Alors oui, d'ailleurs, la date de fin correspond à son décès.
Ah.
C'était le 8 mars 1935.
Donc, c'est un animal qui a vécu 9 ans.
Même un peu plus.
Donc c'est un chien.
C'est un chien.
Ok, ça nous aide. Beethoven 14.
Non.
Beethoven 64.
Non, mais vous avez pas besoin de chercher le titre du film hein, pour trouver la réponse. Hein.
Oui.
Faut juste savoir qu'est-ce qu'il a fait ce chien.
Mais dans les années 30, il a sauvé des gens.
Non.
Il a parlé?
Non.
Il a traversé l'Atlantique?
Non.
Il a fait un voyage?
Traversé le Pacifique?
Non.
Est-ce qu'il a fait un voyage?
Donne-moi ta définition de voyage.
Il est allé d'un endroit A à un endroit B.
Oui, d'une certaine façon, on peut dire. Mais il a pas fait un voyage dans ce cas-là.
C'est un chien qui a inventé le pédigré pâle?
Non.
Alors Burt nous indique qu'il a trouvé la réponse. Bah vas-y, dis Burt.
Donc le film américain c'est A Dog's Tale et ça compte l'histoire d'un chien qui se faisait transporter et il a été refusé puis il fait des voyages quelconques. J'ai pas eu le temps de lire tout le wiki, mais...
Merci. T'as bien fait d'aller sur Wikipédia, t'as raison. Ce soir, on est autorisé à...
Le pire, c'est qu'il l'a lu tout travers. C'est pas exactement ça. Mais c'est bien le bon film, c'est Hachi, A Dog's Tale, le titre. Et ça raconte l'histoire, enfin c'est le remake de l'histoire de Hachiko, un chien, qui a donc attendu pendant plus de 9 ans...
Le retour de son maître.
Oui, qui était décédé. C'est une histoire qui est très connue au Japon. Donc, Hachiko, qui est un chien de race Akita Inu.
Ami japonais, bonjour.
Non, mais il n'est pas connu qu'au Japon. Il n'est pas connu.
Alors, rassurons nos auteurs japonais, vous n'allez sans doute rien apprendre.
Bah non, eux, vous rien apprendre.
Mais par contre, tous les autres, vous allez apprendre plein de trucs.
Voilà, en 1924, c'est un professeur d'agriculture à l'université qui achète donc un chien, qui s'appelle Hachiko. Et tous les jours, donc, le professeur se rend à l'université en prenant le train. Il va à la gare de Shibuya, qui est une gare qui existe encore, qui est une gare importante de Tokyo, et son chien l'accompagne tous les jours jusqu'à la porte et parfois donc jusqu'à la gare. Et malheureusement, en 1925, le professeur, qui s'appelle Monsieur Ueno, il décède au travail. Et cependant, Hachiko, tous les jours, pendant plus de 9 ans, continue à se rendre tous les jours à la gare pour attendre le retour de son maître. Pendant 9 ans. Jour après jour, le chien retourne exactement à l'heure où le train doit arriver. Il va même parfois sur le quai attendre l'ouverture du train, mais malheureusement, évidemment, son maître ne revient pas. C'est un chien qui va devenir célèbre parce que il va y avoir un article sur lui qui sera écrit dès les années 30, ce qui fait que des gens en fait viendront lui donner à manger. C'est bizarre parce que jamais personne essaiera de faire comprendre au chien qu'il est plus là. Non, il donne juste des trucs à bouffer pour qu'il revienne tous les jours. Pour rien, hein. Il a reçu le surnom de Chuken, ce qui est chien fidèle, et il est fréquemment présenté par les parents et les enseignants comme un exemple de loyauté et de fidélité, hein. Voilà, pendant 9 ans, et il l'a fait jusqu'à sa mort, donc en mars 1935, il est décédé. Alors, on peut voir Hachiko encore aujourd'hui, hein, puisque ses restes...
Ah mais oui, il y a une statue de lui.
Exactement.
Dans le grand carrefour de Shibuya,
voilà.
Il y a une statue de lui.
Tout à fait.
Ah mais oui.
Voilà, alors, il faut savoir que ses restes sont empaillés et conservés au Musée National des Sciences. Donc vous pouvez le voir, hein. Bon, il est empaillé. Et une part de ses restes...
Il attend toujours son maître.
Donc, une part de ses restes, par contre, a été enterrée au cimetière Aoyama, à côté de la tombe de son maître. Et il a aussi une place d'honneur dédiée à Hachiko, dans le cimetière virtuel des animaux domestiques du Japon. Oui, ça existe. Et donc, comme tu l'as dit, Dino, ce qui est notable, c'est qu'en effet, devant la gare de Shibuya, il y a une statue de Hachiko. Alors, c'est la deuxième, puisque la première, elle a été érigée en son honneur en 1934. Donc, le chien était encore vivant. Bon, lui, il s'en foutait, il attendait son maître. Mais il y avait déjà une statue qui a été fondue pendant la guerre, hein, qu'ils avaient besoin de...
Directement sur le chien.
Puisqu'ils avaient besoin de métal, et en 1948, ils ont refait une statue, donc elle est connue, alors en plus, elle est située à la sortie Hachiko, c'est-à-dire que la sortie de gare qui correspond là où il était, porte son nom maintenant. Et d'ailleurs, suite aux travaux de rénovation de la gare, où ils ont agrandi et déplacé en fait les entrées, la statue aussi a été modifiée pour que la statue regarde toujours vers l'entrée, là où Hachiko attendait son maître. Et sur le quai de gare où le train de son maître devait arriver, il y a des traces de pattes en fait en bronze qui sont dessinées avec des explications. À noter que ça a aussi ça a remis en valeur la race des Akita Inu, hein, cette race de chiens, puisque à l'époque de Hachiko, il y avait plus que 30 chiens pure race de cette espèce. Donc ça a été, donc elle a failli disparaître, et indirectement, grâce à lui, elle a été remise en valeur. Et donc, il y a eu un film en 1987.
C'est con, c'est qu'il n'y aura jamais des baleines qui attendront leur propriétaire devant une gare.
Et donc, il y a donc le film japonais Hachiko Monogatari, donc qui est un film japonais qui raconte l'histoire. Et donc, il y a eu le remake de 2009. Avec Richard Gere, hein, oui. Alors, qui s'appelle Hachi A Dog's Life. En français, ça s'appelle juste Hachi, sauf qu'ils ont rajouté un T, parce que normalement, c'est A-H-A-C-H-I.
Ouais, donc ça fera Hachi.
Et donc, cette statue à Shibuya est très connue, et c'est un lieu de rendez-vous très connu, voilà.
Si on veut trouver le Hachiko de la F1, ça serait Massa. Il est devant la porte de Maranello, attend son maître. Voilà, je vais m'attirer les foudres des fans de Massa, du demi-fan.
De ce qu'il en reste. Alors, en F1, le 9 juin.
Ah!
Bah, voilà. Fallait vous grouiller, les gars. On peut noter le 9 juin 1898, la naissance de Luigi Fagioli. Alors, qui n'a qu'une victoire, mais partagée d'ailleurs avec Juan Manuel Fangio. Mais c'est encore aujourd'hui le vainqueur de Formule 1 le plus âgé, à 54 ans.
Ouais.
C'est quand même pas mal. Sinon, au niveau des Grands Prix, on peut noter le Grand Prix de Belgique 1968, qui avait été gagné par Bruce McLaren. C'est sa quatrième et dernière victoire. C'est aussi le premier podium de Jackie X. Et c'est la première victoire de McLaren, la société Minerva. Sinon, on peut remonter au 9 juin 1974. C'était le Grand Prix de Suède. C'était la première victoire de Jody Scheckter. Et aussi le premier podium de Patrick Depailler, qui faisait aussi sa première et unique pole position. Voilà, c'est tout pour ce 9 juin. Allez, rassurez-vous tous. On va passer à la F1. Et surtout, on va passer à l'heure de gloire de l'invité.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Bert, tu le sais,
oui.
Cette année, puis l'année dernière d'ailleurs, nous consacrons une heure de gloire à nos invités, une demi-heure avec le décalage horaire, ça fera 18 minutes exactement te concernant. Et ces 18 minutes de gloire commencent par le...
Le pour-papou.
Le pour-papou. C'est bien, dans cette phrase il n'y a pas d'anglicisme. Vous voyez que le Canadien sait parler français correctement.
Parce que je
déteste les anglicismes. Ça met la pression sur l'invité qui va dire, attends, là j'ai un mot, mais c'est un anglicisme. Alors, faut que je fasse gaffe.
Non, je vais... Let's get it out of the way faster. Et c'est fait.
Voilà, ça y est. Donc, je rappelle le principe, je vais te faire 10 propositions de sujets globalement sur l'actualité, mais pas que. Quoique, non, ils sont tous sur l'actualité plus ou moins liés à la fin.
Juste un truc, tu vas te poser ta question habituelle.
Ah bah oui.
Je dis rien. Ouais,
ouais. On est obligé. Et donc, tu pourras revenir sur 3 sujets de ton choix, dont plus un sujet imposé par la force des choses, même si tu es canadien.
Ah, d'accord.
Alors, quand tu es prêt,
je suis prêt.
On va. Alors, si tu es prêt, moi je suis prêt, donc j'y vais. Pour ou pas pour la Formule E?
Pour.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas posé cette question-là, je me suis dit, allez hop, voilà. Pour ou pas pour, et Arnaud Trulli?
Pour.
Pour ou pas pour le départ de Pastor Maldonado chez Williams, petite frayeur.
Je suis pour son départ.
C'est pour qu'il parte chez Lotus.
Pas pour.
Comme quoi un mot pour changer directement de sens. Pour ou pas pour parier 50 euros avec Kiloda sur l'absence de pénalité pour Mercedes après le test gate.
Je crois pour, mais pour des raisons politiques.
Pour ou pas pour le retour des essais privés pendant la saison.
Très pour.
Pour ou pas pour aller jusqu'à Silverstone en mangeant des couilles de chameau durant tout le trajet.
Au moins tu vois à Silverstone, donc pour.
Ah, t'es prêt à aller à Silverstone en mangeant des couilles de chameau?
Oh, un gosse essaye.
Pour ou pas pour l'arrivée de Ford en tant que motoriste de Formule 1.
Pour.
Pour ou pas pour que Suzy Wolff participe aux essais jeunes pilotes.
Pour.
Pour ou pas pour le retour de Petrov.
Pas pour.
Et enfin, pour ou pas pour, la F1 sur Canal+.
Je dois dire pour.
Ah, bah tu vois, il est pour, je dis. Et donc, c'est le sujet inévitable. Globalement, c'est pour ou pas pour la F1 sur des chaînes payantes. D'abord, faut peut-être que tu nous dises un peu comment vous, au Canada, vous voyez la F1, comment vous la recevez.
Ben, c'est en effet la raison pour que je suis pour. Depuis tout le temps, la Formule 1 a été présentée sur le câble ou sur une autre chaîne, effectivement, payante. Il y a à peu près 20 ans sur Radio-Canada où ce qu'on avait des émissions en différé, mais pour avoir des présentations live, excuse l'anglicisme, c'est du payant. On nous a présenté une version française avec des animateurs locaux,
ouais.
Et on a une rediffusion du feed de BBC, donc avec Coulthard et compagnie.
D'accord. Mais c'est vrai que chez vous, c'est parce que nous dans notre culture en France, le câble, enfin les chaînes payantes sont quand même très minoritaires. Il y a une vraie culture de la chaîne gratuite. Et vous, chez vous, au Canada, concrètement, la télévision, c'est plus du payant, plus du gratuit, c'est plus du câble.
Je dirais c'est plutôt du payant, mais j'ai aussi vu ça avec tout le drame avec Sky, la BBC, où ce que on a les frais qu'on doit payer à la BBC pour avoir le droit de poser une antenne. Et donc, je comprends que c'est avec ce paiement explicite pour avoir la télévision que je comprends que le monde n'était pas content que la Formule 1 s'en aille sur la télé payante. Par contre, il faut quand même dire que la Formule 1, c'est pas une organisation du gouvernement, donc il n'y a pas vraiment de raison pourquoi qu'elle devrait être gratuite, forcément.
Oui, c'est vrai. Voilà, vous voyez, voilà, les Canadiens, moi je dis, c'est des gens formidables. C'est Ouhou. Des gens, c'est d'une qualité exceptionnelle. Voilà, an exceptional quality. Voilà, là je viens de parler québécois. Québécois, c'est un mec qui parle anglais avec l'accent français. Un canadien, c'est un mec qui parle français avec l'accent anglais. C'est comme ça qu'on fait la différence. Alors ensuite, tu peux revenir sur trois sujets de ton choix, parce que je pense qu'on reparlera de Jacques Villeneuve un peu plus tard.
Oh, peut-être. Je le voyais venir. Donc, on avait Formule 1, Suzy, ouais. Wolf, Petrov, Silverstone.
Alors oui, si tu veux aller à Silverstone en mangeant des couilles de chameau, des camel balls, durant tout le trajet. Parce qu'il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, c'est un peu le sujet polémique du moment, c'est qu'il y a des bonbons qui s'appellent les couilles de chameau.
Oui, oui.
Et qui, en fait, c'est un packaging où vous voyez, c'est un bonbon marron en forme de boule, l'intérieur c'est blanc avec un liquide rouge. Voilà, bon, en soi, il y a pas grand-chose de choquant, mais ça s'appelle des couilles de chameau, et sur le packaging, vous voyez clairement un chameau avec des testicules, quoi. Donc,
oui, ça a fait le tour des différents sites de jokes.
Ouais.
On peut repasser, c'était quoi les 10?
Alors, les 10, les 8, parce qu'on va retirer les sujets moins intéressants.
Ah oui?
La Formule E, Yarno Trulli, le départ de Maldonado chez Lotus, parier 50 euros avec Niki Lauda sur l'absence de pénalité pour Mercedes après le test gate, le retour des essais privés pendant la saison, l'arrivée de Ford en tant que motoriste de Formule 1, que Suzy Wolff participe aux échecs jeunes pilotes, et le retour de Petrov.
On va y aller, on va commencer Niki. Avec Niki Lauda. Moi, je suis pas mal sûr que l'exercice qu'on est en train de vivre, c'est pas nécessairement pour trouver quelqu'un de coupable ou pas coupable dans toute cette situation-là, mais c'est pour éprouver le système de tribunal de la FIA.
Oui.
Donc, on va en passer un pour que ça devienne légitime dans les yeux de tous. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'en vient bientôt entre un petit Anglais de 83 ans et des gens en Allemagne qui pourraient causer des ennuis pour la FIA.
Oui, toi tu penses en fait que c'est un moyen de montrer que la FIA peut faire juste par un peut livrer elle-même justice.
Oui, mais je pense qu'on va trouver une solution où ce que le tribunal se fait voir. Comme que ça a bien fonctionné et que ça a un pouvoir légitime pour que dans les prochaines causes, par exemple, on va dire peut-être que la FIA, si jamais Bernie est trouvé coupable en Allemagne, que la FIA puisse essayer de repatrier les droits commerciaux de la F1.
Ah oui. Toi, tu vas jusque-là. Enfin, c'est-à-dire que toi, tu interprètes ça comme un moyen pour la FIA de montrer que ils ont la stature la stature nécessaire pour pouvoir supporter la gestion des droits commerciaux de la F1 et de tout ça.
Pas nécessairement avec ce qui se passe avec Mercedes, mais au moins pour se donner la légitimité pour le faire.
Oui.
Donc, il faut que tout le monde sorte puis qu'ils disent que oui, le tribunal a bien fonctionné, tout le monde est content, la décision est bonne, est saine, est juste, blablabla, bla, bla, pour que pour les prochaines causes, le tribunal il est pas mis en doute dès le début parce que lors du premier ou du deuxième procès qu'il y a eu que tout le monde s'est chicané que ça avait pas de bon sens. Donc pour revenir au c'était un pari contre Nicky pour dire que Mercedes allait s'en sortir sans problème.
Mais toi tu penses que du coup ils vont s'en sortir sans problème?
Non, moi je pense qu'ils vont se faire pénaliser d'une façon ou d'une autre parce que peu importe ce que tu fais, peu importe qui t'est impliqué, Ross Brawn qui a gagné 7, 8, 9 championnats, c'est impossible que tu roules pendant 1000 km et que tu apprends zéro. C'est carrément impossible. Par contre, ça se peut, là il y a des pourparlers qu'il y a un courriel de Charlie Whiting à Mercedes qui dit oui, tu as le droit. Ça se peut.
Oui, ce à quoi on a répondu notamment que dans ce courriel, il était justement, c'était un courriel qui était mis en avant par Mercedes pour se défendre en disant bah oui, on a reçu un courriel de Charlie Whiting qui nous disait qu'on pouvait faire les essais. Sauf que visiblement dans ce courriel, Charlie Whiting expressément que c'est à condition que toutes les équipes en soient informées et que ça a été fait en concertation avec les autres équipes, ce qui n'a pas été le cas. Donc en fait, c'est un argument qui se retournerait finalement contre Mercedes.
Oui, mais je comprends aussi que, puis c'est quelque chose que j'ai entendu à quelque part aujourd'hui, que pour avoir une force ou une validité pour la FIA, Charlie Whiting aurait dû ou envoyer ce même message à tout le monde, que je crois comprendre n'a pas été fait. Donc là, c'est-tu un mail officiel de la FIA, oui ou non? On va voir.
C'est là où effectivement on arrive aussi dans un processus à cause de ce tribunal qui est assez nouveau, qui est un processus de droit. Et c'est vrai que par exemple, ce qui a été surprenant ce week-end, c'est de voir Paul Embury ne pas participer aux conférences de presse FIA, ni aucun point presse, sur demande des avocats. C'est vraiment la première fois. J'ai pas souvenir que dans les précédentes affaires c'était aussi présent. C'est la première fois qu'on sent vraiment l'influence des juristes derrière, qui interdisent à des patrons d'équipe ou à ce genre de choses. À ce genre de personnes de parler, là où Briator dans le Crashgate ou alors dans le Spygate en 2007, où on avait un peu l'impression quand même que c'était géré en interne, là c'est la première fois qu'on a vraiment l'impression d'avoir une vraie structure juridique qui a été mise en place, une vraie procédure juridique, notamment, enfin c'est sans doute aussi lié au fait que la précédente grosse affaire a quand même tourné à l'autre boudin pour la FIA parce que la FIA avait condamné Briator, Simon et compagnie, pour derrière être débuté devant la justice, ce qui fait dire maintenant à Briator qu'il a été reconnu innocent, ce qui est toujours plaisant. Là, c'est vrai qu'on sent vraiment la dimension vraiment juridique de cette procédure qui aura lieu le 20 juin, si j'ai bien suivi l'information aujourd'hui. Donc ensuite, un autre sujet, Bert, sur lequel tu voudrais revenir.
On va faire les essais privés.
Les essais privés.
J'étais pauvre, très pauvre, je crois.
Ouais.
Les gens.
T'es enthousiaste.
Même aujourd'hui, outre les nouveaux moteurs qui sortent avec tout le redesign des autos qui ça va obliger. J'ai toujours dit que une saison pas de test privé que c'était peu viable. Que n'importe quoi qu'ils font du wind tunnel, du la modélisation par ordinateur, il y a rien mais rien qui simule une auto sur une piste. Je crois que ça va leur coûter moins cher s'ils sont capables de restreindre autre activité. On parle aujourd'hui de restreindre la soufflerie à 30 heures semaine au lieu de 40. On parle aussi de réduire le nombre de films de jours de filmage, les filming days. parce que ça c'était.
C'est ça en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui ils sont plus dans cette logique de dire bon, on remet en place des essais, des vrais essais, mais on arrête les systèmes qui permettaient malgré de faire des essais un peu en loose day, les journées de tournage, les essais peut-être aérodynamiques vont peut-être aussi être réduits, parce qu'aujourd'hui c'était un peu la contrepartie, on arrêtait de faire des essais, mais on laissait quand même quelques petits domaines dans lesquels à certaines conditions on pouvait quand même faire des essais.
Oui, des jours de filming où ce que il y a des camions qui arrivent et puis des morceaux qui sont mis sur les autos, même pour les valider, pour faire une vérification finale avant de mettre une pièce sur l'auto de course, toutes les histoires sont là.
C'est ce qu'a fait Caterham juste avant de revenir en Europe, où ils sont allés à Manicourt pour une journée de tournage et où ils ont essayé quasiment toutes les nouveautés qui sont arrivées après Barcelone. Donc voilà, c'est toujours un peu le. Alors après, c'est vrai que ce que dit le règlement, c'est que ça doit être fait avec des pneus. Enfin, c'est des pneus spécifiques ou des pneus pluie ou ce genre de choses. Ça n'empêche pas, malgré tout, on a quand même il y a quand même une base de référence. On a déjà fait des essais avec ces types de pneus, donc on a quand même une base de référence pour pouvoir essayer des nouvelles pièces, parce qu'il y a strictement rien qui oblige. Il y a aucun moyen de contrôler que les équipes ne mettent pas des nouvelles pièces. C'est vrai que c'était un peu détourné ces journées de tournage pour faire des essais ni vu ni connu.
Ce qu'ils pensent faire, c'est pendant 4 Grands Prix, je crois, européens et un au Bahreïn, ils vont rester le mercredi et le jeudi pour tester. Je suis pas trop sûr que c'est la meilleure solution. Premièrement, ça va obliger que ça soit fait après des Grands Prix où qu'il y a un intervalle de 2 semaines. Et donc, pour tout faire pratique, pas une intervalle de 2 semaines. Tes gens vont être encore plus épuisés. Tu vas avoir besoin d'un deuxième test team, ainsi de suite. Moi, j'avais toujours pensé, puis ça fait des années que j'essaie de faire passer l'idée dans les différents forums puis les blogs, ainsi de suite. Il y a personne qui m'écoute. Pour les manches européennes, le lundi, tu restes sur place, tu amènes les pièces que tu veux, tu fais ton test là une journée, c'est tout. Là, ça veut dire qu'on va avoir 6-7 jours de test. Ça coûte une nuit de plus à l'hôtel.
L'équipe est déjà sur place.
Est déjà sur place, puis on n'attend pas 2-3 jours.
Et puis, en le faisant après, ça a moins d'influence que sur la course. C'est plus neutre par rapport à la course qui a lieu dimanche. Parce que si tu le fais avant, c'est quasiment comme si tu faisais un super week-end avec 2 jours de plus d'essai pour préparer la course.
Oui, mais je pense qu'il parlait pas de faire ça dans les 2 jours suivants, le Grand Prix.
Il me semble, non?
Alors, pour le moment, c'est-à-dire que on a entendu à Montréal quand même des échos assez différents, des points de vue assez différents. On sait que les équipes se sont aujourd'hui entendues pour un retour des essais, qui prendrait la forme de 4 séances d'essais de 2 jours après des Grands Prix.
Ok, après.
Maintenant, je pense qu'il y a encore pas mal de détails techniques d'organisation à mettre en place, notamment effectivement sur les délais, sur ce genre de choses. Est-ce qu'on est fait le lundi, le mardi? Est-ce qu'on est fait le mardi, le mercredi?
Sur quel circuit? Parce qu'il y a peut-être des circuits qui vont plus intéressé que d'autres, même malgré les délais. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, Monaco, même s'il y a 2 semaines de pause après, ça va pas les intéresser de faire des essais à Monaco. Ce sera même pas possible.
Mais non seulement ça, typiquement après Monaco, vous êtes chez nous. Mm. Donc, vous êtes occupé à empacter les boîtes d'avion, ainsi de suite.
Mais c'est vrai que ce que tu dis, il faudra vraiment voir comment ça va s'organiser concrètement pour voir effectivement. L'idée est intéressante en tout cas de se dire on réintroduit des essais, mais en fait en réexploitant les infrastructures de course, en réexploitant les équipes de course, les équipes qui étaient sur la course, même si on sait que c'est l'illusion parce que on va quand même développer des équipes d'essais, des moyens.
C'est quand même ce qui reste de plus logique pour éviter d'exploser les coûts.
C'est-à-dire que entre un retour des essais sur un circuit à part, c'est en une semaine comme on l'avait fait au Mugello. Et ce type de solution-là est un peu moins coûteux, surtout que notamment, par exemple, les frais de transport sont pris, je crois, en partie par la FIA ou la FOM, je sais quoi. Donc, il y a des prestataires qui sont partenaires. Donc, c'est-à-dire que les frais de transport sont inclus dans les frais du Grand Prix. Donc, même ça, en termes de comptabilité, c'est peut-être un peu plus avantageux pour les équipes que pour une solution qui consisterait à faire sur un circuit
oui,
autonome.
Et il y a peut-être une autre chose qui est connexe, c'est que ça donnerait possiblement du temps pour les pilotes d'essai et les pilotes de réserve à faire un peu de kilométrage.
C'est ça que j'aimerais voir aussi. Est-ce que derrière, il n'y a pas non plus la possibilité, justement, de permettre aux jeunes, soit de profiter comme elle est de voiture, de dire, il y a un titulaire qui roule sur une voiture, et sur l'autre voiture, il y a un jeune, ou alors de dire, vous êtes obligé, lors d'une des deux journées, de mettre un jeune pilote, l'autre journée, vous mettez un titulaire, mais en tout cas, de faire rouler des jeunes. Je pense qu'il faudra conditionner ça aussi au fait de mettre des jeunes. Ou alors, comme on fera des essais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut être clair, aujourd'hui, dans le déroulement d'un Grand Prix de Formule 1, la plupart des essais libres servent à évaluer les nouveautés, même si les équipes disent qu'ils n'ont pas le temps, notamment les essais libres 1, c'est là où ils font des évaluations de nouveautés. Donc l'un des deals pourrait très bien être de dire, on vous rend des essais libres, on vous rend des essais privés après 4 Grands Prix, mais la condition c'est que le vendredi matin du Grand Prix précédent, bah, vous mettiez dans l'une de vos deux voitures un jeune pilote, ce qui ferait rouler par exemple sur la moitié des Grands Prix ou sur les 4 Grands Prix en question, ce qui permettrait de faire rouler des jeunes pilotes et donc leur permettrait de prendre de l'expérience. Un vendredi matin, il y aura d'enjeux véritablement.
Absolument.
Et donc un troisième sujet sur lequel tu voudrais revenir.
C'était quoi la question de Maldonado?
Le départ de Maldonado chez nous, parce que c'est la rumeur du week-end.
Ok, on va prendre celle-là parce que je pense que ça pourrait être une discussion intéressante.
Ah, vas-y.
La question c'est quel siège qu'il prendrait. C'est-tu Kimi qui s'en va ou c'est Grosjean?
Vu la situation de chez Lotus, enfin ce qu'on suppose, ça serait plutôt celle de Kimi. D'un point de vue financier, c'est ce qui est le plus intéressant, en tout cas pour Lotus.
Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kimi de l'argent, parce qu'il a un salaire et notamment des bonus par points, qui ont coûté très cher l'année dernière. Là où Romain Grosjean a certains salaires, mais il a surtout le soutien de Total. Bon, on peut très bien penser que même sans Romain Grosjean, Total continuerait de soutenir Lotus.
Même s'il a quand même de fortes chances. Il risquerait d'y avoir un petit souci. C'est que, bah, parce que Total d'un côté, PDVSA.
Ah bah oui, il y aurait PDVSA.
PDVSA, c'est quand même le sponsor de Maldonado.
Exact.
Oui, mais ça pourrait être aussi le moyen pour Total de faire un partenariat avec. Il faut aussi voir ça. Peut-être que justement Total accepterait d'avoir PDVSA comme sponsor titre de Lotus, parce que rappelons que Lotus a un sponsor, mais il n'est pas sponsor titre. Il sponsorise rien puisque c'est juste Lotus. Et donc ils accepteraient en vue de mettre en place peut-être un rapprochement avec PDVSA pour former peut-être un nouveau groupe ou pour mettre en place des synergies, des relations entre pétroliers.
Ok, mais si on joue le jeu d'échecs, Kimi Räikkönen irait où?
Chez Red Bull?
Non, je crois que Sébastien aura un veto là-dessus, Helmut aussi. Celle-là, je la vois pas, et donc je ne vois pas Kimi Räikkönen déplacé. Qui voudrait dire que peut-être ça serait Grosjean.
La question, c'est est-ce que véritablement, malgré ses 3 titres de champion du monde, Sébastien Vettel est un pilote qui compte autant que par exemple un Fernando Alonso dans son écurie. Fernando Alonso, chez Ferrari, on sait très bien que ça doit et qu'il a clairement mis un droit de veto sur tout projet d'arrivée de Lewis Hamilton et que s'il était plutôt partant au début, l'idée d'une association avec Vettel lui plaît de moins en moins. Est-ce que Vettel est véritablement dans cette position chez Red Bull? Sincèrement, je suis pas certain que Vettel ait autant de pouvoir chez Red Bull. Je pense que Red Bull chouchoute Vettel et en fait sa priorité, mais je pense que contrairement à Ferrari, si Red Bull voulait mettre quelqu'un dans la voiture pour concurrencer Vettel, je suis pas sûr que Vettel aurait véritablement un poids à faire peser dans la balance.
Je crois qu'il l'a et qu'on l'a vu parce qu'il n'y a pas eu de sanctions ou de pénalités publiques de Red Bull après ce qui s'est passé avec Weber. Le fait qu'on l'a laissé passer, on accepte maintenant de dire publiquement que oui, peut-être Vettel puis Weber, c'est pas les meilleurs chums au monde. Je pense que c'est une déclaration caché.
Oui, mais on peut peut-être aussi considérer que le fait que Dietrich Mateschitz, je crois que c'est juste après le Grand Prix de Malaisie, ouvre la porte à une potentielle arrivée de Kimi Räikkönen, c'est indirectement rappeler que le patron c'est lui, et que même si Vettel ne sera pas sanctionné parce que c'est leur pilote numéro 1, leur triple champion du monde, et qu'ils acceptent sa situation et qu'ils le privilégient clairement, c'est aussi un moyen de rappeler, après c'est nous qui mettons qui nous voulons dans la voiture.
Oui, je comprends. Et c'était toujours dans le modèle d'affaires de Red Bull d'être discipliné ou qui contrôle bien qui est dans les sièges. Et je crois que ça passe aussi chez Toro Rosso, où ce qu'on a vu le siège éjectable les dernières années, où ce que dès que t'avances plus, je suis parti.
Ça va d'ailleurs très vite, hein, chez Toro Rosso. Si. Parce que en deux grands prix, on est quand même passé de Ricciardo à Vergne.
Ouais. Mais pour revenir à tout ça, parce qu'on parlait de Maldonado, moi j'étais pour son départ, je crois.
De Williams et de la F1.
Ok, mais non, moi je le voyais déplacer Romain Grosjean. Et si Lotus voulait sauver de l'argent, ne pas avoir Grosjean dans l'auto qui pente son auto à tous les 2-3 grands prix, ça sera une merveille.
Après, Maldonado plante son auto tous les grands prix.
Oui, mais il peut peut-être amener beaucoup plus d'argent aussi.
C'est-à-dire que voilà, je pense que l'argent qu'apporte Maldonado est plus important que l'argent que peut apporter Romain Grosjean.
Ça va payer les crèmes glacées, les coca à Kimi.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est aussi dans la logique. C'est-à-dire que ça pourrait être les deux. Soit il est là pour remplacer Miracle parce que Lotus est face à l'éventualité que Miracle s'en aille, tout simplement. Soit c'est aussi un moyen de ramener de l'argent frais pour gagner, pour garder Miracle, ou éventuellement pour attirer peut-être un autre pilote, une autre pointure. On peut penser à un Rosberg, par exemple, pourquoi pas. On peut penser, pourquoi pas, un Vettel, un Alonso. Ça, c'était des pistes totalement farfelues, mais attirer un autre pilote de pointe, peut-être, autre que Kimi Raikkonen.
Oui, ouais, parce que Kimi, il a le don de rentrer, de venir et de s'en aller comme qu'il veut. Fait que ça se peut bien que dans l'année prochaine ou cette année, il est tanné. Puis...
Kimi, il a toujours eu le don, c'est de partir de son plein gré, mais souvent bien accompagné. Et souvent à charge de l'équipe qui part.
Oui,
voilà. Dire que quand il a quitté Ferrari, il a dit « D'accord, moi je veux bien partir, mais ça se discute. »
Santander a payé.
Oui, ah, ils ont bien payé. Donc ensuite, là on a fait le tour des actus. Est-ce que tu aurais une actu ces dernières semaines dont tu n'as rien eu à foutre? À l'exception de la nouvelle coupe de cheveux de Jacques Villeneuve.
Prendre les pilotes qui se plaignent des décisions des commissaires. On a vu plusieurs pilotes passer pour voir les commissaires en fin de semaine et on en a une couple qu'ils ont été très pas d'accord avec le résultat de la réunion. Moi, je vois que quand tu sors du tribunal des commissaires ou le tribunal de la FIA, la décision de faire, c'est ça et c'est fini. Tu t'en vas, même si tu manges tes bras, ben, t'as plus rien à dire.
Oui. Bah, c'est vrai que là, on est un peu dans l'idéal, mais on s'est tous retrouvés à un moment donné jugés, enfin forcément devant la justice, mais jugés par nos pères, par nos patrons et compagnie, et c'est sortir du bureau en disant mais non, mais il raconte des conneries, c'est pour rien et compagnie. C'est aussi partie du jeu, je pense, quand on est condamné, quand on est pénalisé, de contester.
Mais que tu contestes ça avec les personnes concernées, virer de bord et faire ça de façon publique, parce que les commissaires, eux, n'ont aucune voix publique. Eux, ils font leur décision, that's all. Nous, on ne voit rien. Autre que la décision, mais de l'autre bord, t'as le pilote qui utilise les médias pour si ça, on regarde c'était pas Sutil et Trulli au Brésil où ce que Sutil est revenu avec des photos de l'accident
oui,
pour expliquer
les photos.
C'est comme give it a break.
Mais on peut même faire un lien avec ce qui s'est passé à Roland-Garros où on a un joueur qui, mécontent de la décision de l'arbitre sur un point qu'il jugeait faux, a été chercher son smartphone pour prendre la marque de la balle en photo et la diffuser sur Twitter pour inviter les gens à juger. Les gens, ça va pas te rendre le point, ça va pas te rendre le match. Même si les gens étaient d'accord avec toi, d'ailleurs ils n'ont pas été d'accord avec lui, ça lui est revenu dans la figure, mais même si les gens étaient d'accord avec toi, le fait est qu'il y a un juge de ligne qui a jugé que la balle était faute, et que quand il a révisé son jugement, il a toujours estimé que la balle était faute. Donc tu peux rien y faire, tu prennes une photo, que ce soit, ça ne changera rien. Je pense que c'est surtout des trucs qui cherchent à se mettre soi-même dans l'action, que on a été spolié, voilà, enfin que c'est un psychologique peut-être, que de contester la décision de l'arbitre. Donc ensuite, quelle actualité en dehors des Grands Prix aimerais-tu lire dans les prochaines semaines?
Ouf, à l'extérieur de la Formule 1.
Bah, disons qu'à l'extérieur des résultats des courses, genre la victoire de machin, bon ça c'est pas intéressant pour nous. Plus une actu vraiment au sens d'actualité de news. Quelque chose que tu aimerais lire sur la F1.
Le hamster il court dans la tête.
Ah. Tu lui as mis une petite roue?
Ouais.
Il a du gruyère? Alors des fois c'est peut-être un peu plus simple. Qu'est-ce que tu n'aimerais pas lire dans l'actualité des prochaines semaines en Formule 1?
Ok.
Souvent on trouve plus facilement ce qu'on voudrait pas voir.
Il y a eu discussion que chez Force India, suite à des commentaires de Paul De Resta, qu'il y a eu certains membres de l'équipage qui se sont battus. Ça, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est ce que vous faites chez vous. Nettoyez votre maison comme vous le jugez, mais...
Bon, ça, c'est quelque chose que t'en as rien à faire, mais est-ce que t'as une actu que tu n'aimerais pas lire? Au sens où, vraiment, c'est quelque chose que t'as pas envie de lire dans...
Des mauvaises nouvelles.
Mmh. Voilà, ce serait une mauvaise nouvelle pour toi, en Formule 1. En dehors de Vettel gagner encore.
Ouais, on va y revenir à celle-là.
Donc au contraire, est-ce que tu as une actu que tu aimerais lire dans les prochaines semaines?
Ben, j'aimerais que...
Quelque chose qui te ferait plaisir.
De connaître le sort des nouvelles infrastructures qu'on demande pour le Grand... ou qu'on va demander pour le Grand Prix du Canada. Notre contrat finit en 2014, et là, il y a le jeu typique de Bernie, que oui, non, infrastructure, c'est plus beau, j'ai des courses ailleurs, on n'est pas sûr... Donc.
Alors, Bernie, tu retires le Canada, on te pète les jambes.
Ouais, fou.
Et on te fait une coiffure à la Justin Timberlake.
Mais pour y péter les jambes, il faudrait se pencher un petit peu.
Faudrait déjà qu'il ait des jambes. Et donc, l'actu que tu aimerais pas lire, tu renonces? T'as pas d'inspiration?
Pour l'instant, j'ai pas de.
Alors, si t'as pas d'inspiration, c'est Shinji qui doit dire. Shinji, quelle actu tu n'aimerais pas lire dans les prochaines semaines en dehors des Grands Prix?
Eh ben, que le Grand Prix du Canada est supprimé après 2014.
Ce serait une bonne nouvelle.
Oh
ça.
Non, ça serait triste.
Il y en a marre des Canadiens, moi je peux plus les voir. Alors, Grand Prix merde là. Ouh là là. Sur, alors, une ville, mais une ville pourrie, avec des gens désagréables. Oh là là. Ça s'appelle dire l'inverse de ce qu'on pense. Bon, sauf pour Jacques Villeneuve.
Oh.
J'essaie de le lancer. Donc voilà, c'est tout pour ton heure de gloire. On va terminer sur un drive. Est-ce qu'il y a un drive-thru of the weekend?
Oui, le drive-thru du weekend, forcément, il faut que ça soit l'équipe McLaren.
C'est vrai que ce week-end, ouais.
Si c'est juste du fait qu'ils n'ont pas réussi à faire passer Button avant la ligne d'arrivée, à temps pour faire un autre tour lancé dans Q2. Button est parti de la ligne. Oui, il était dernier ou avant-dernier en ligne. Je crois qu'il y avait 1 minute 50. Un tour de Montréal dans la pluie, c'est 1 minute 30, je crois.
Il a passé la ligne 2 secondes, enfin à peine 2 secondes exact, après le drapeau.
Exact, parce que son équipe il a dit de le lever le pied un petit peu.
Ah. Ouais. Il a peu de ça. C'est vrai que d'ailleurs quand on voit les images, il a vraiment le champ libre, mais bien libre. Il a peut-être trop voulu avoir le champ libre, peut-être trop anticipé justement sur des gènes dans ce où voilà, il a
pris trop. Mais en effet, puis c'est peut-être un point qu'on reviendra pour la course. Dans un des after race, Martin Whitmarsh a avoué que lors du, je crois, le deuxième relais de Button, on aurait pu lui demander d'aller beaucoup plus vite qu'il allait. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête chez McLaren, mais mon drive-thru, c'est McLaren côté gestion d'équipe.
Mais c'est un peu le problème, c'est clair que c'est aujourd'hui les équipes demandent aux pilotes, ils disent aux pilotes ce qu'ils doivent faire en course. Sauf que derrière, qu'est-ce qui permet de dire que le pilote n'aurait pas réussi lui à aller loin en économisant ses pneus et compagnie. C'est toujours un peu le problème. Enfin cette année, c'est vrai que c'est très problématique, c'est que on a des équipes qui donnent des consignes basées sur des calculs. Sauf que effectivement, rien ne nous garantit que le pilote n'aurait pas réussi à adapter son pilotage, à s'adapter aux pneus et compagnie en attaquant.
Absolument. Et là-dessus, il y a un ou deux points. Commencez-moi pas sur les radios équipes où ce que le pilote demande, est-ce que je dois attaquer ou est-ce que je dois le laisser partir? Ça, là, ça, je deviens bleu. C'est quasiment inacceptable. Je sais pas si c'est même une consigne de Bernie et son équipe de production de télévision qui, quand ils voient des messages passer comme ça, de forcer les mettre à la TV pour mettre le tour dans le dos de Pirelli. De l'autre bord.
Bah, c'est pas son intérêt, parce que c'est l'un des gros soutiens de Pirelli. Au contraire, lui, il est content. C'est peut-être l'un des seuls qui est très content de Pirelli. D'ailleurs, parce que ça fait du spectacle en course, et parce que ça fait de la polémique, et c'est jamais mauvais pour la F1, selon lui. Non, mais je pense sincèrement que dans le choix des conversations en radio, c'est parce que c'est ce qui dit majoritairement, quand même. Puis c'est aussi ce qui est un peu plus accrocheur. Enfin, quand on prend la remarque de Lewis Hamilton, je sais plus ce que dit son ingénieur, il dit écoute, c'est bon, laisse-moi attaquer. Bon, ben voilà, on sait très bien que dans ce genre de consigne, on est dans la confrontation entre les desiderata d'une écurie et les frustrations ou les envies d'un pilote. Donc on sait qu'il y a un potentiel de mini clash entre l'ingénieur et le pilote.
Toutes les radios qui passent, rappelons-le, sont décalées d'environ un tour. Donc chaque radio qui passe, même la plus anodine, est un choix de réalisation.
Ben forcément, parce que je suis pas mal sûr qu'il y a des gros mots qui se disent et même peut-être par exprès pour s'assurer que le message il ne sort pas.
Mais on se rappelle l'affaire du crashgate de Singapour. On avait eu accès au compte rendu de tout ce qui avait été dit sur le muret des stands pendant la course. Et et on s'était justement posé la question à l'époque de savoir si ça avait été bardé du rond parce que on voulait pas que ce soit écouté ou parce que tout simplement les gens en Formule 1 parlent comme des gros porcs. Et il y avait peut-être un peu des deux.
Dino, un drive-thru?
Oui, mais ce sera un drapeau à Julien Frébert.
Tu veux que je fasse le mien avant, non? C'est pour ça, non?
Non, c'est un petit drapeau, il va durer.
Moi aussi, donc vas-y.
C'est un drapeau à l'intention de Julien Frébert, qui a osé, Julien, qu'est-ce qui t'a pris? Qui a osé, corriger Jacques Villeneuve, lors de l'accident de Maldonado, l'un des accidents, je crois que c'est en essai libre. Il a osé dire, non, c'est dans le secteur 2 ou 3, alors Villeneuve disait c'est dans le secteur 1.
Julien. T'essaies de bien te faire voir des Québécois.
Jacques Villeneuve,
c'est un gars du coin.
Il est québécois d'abord. Il connaît très bien le circuit parce que il connaît très bien le circuit. Et en plus, c'est le circuit qui porte le nom de son père. Tu n'as pas le droit. Le mec, il dit un truc sur le circuit.
Même si c'est faux, c'est pas grave. Si c'est lui qui le dit.
Même si c'est faux, tu le corriges après. Ah, Jacques, après vérification, qu'on va dire. Mais tu es sûr ton fait. Tu te lances pas dans des trucs genre non, c'est secteur 3. Mais oui, c'est secteur 1. Même moi qui suis pas canadien et qui j'adore le circuit Gilles Villeneuve, je savais que c'était secteur 1. Si t'es pas sûr, tu te tais. Tu fais ce que tu veux sur les autres Grands Prix, mais pas au Canada. Pas avec Gilles Villeneuve à côté. Et toi, Chidi, ton drive-through?
J'aurais pu me le donner à moi-même parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un drive-through ce week-end. Non, je dirais sur l'ébauche de calendrier qu'on a eu, puisque pour l'instant, il se pourrait que le calendrier 2014 ait 21 dates. 21, on le sait, ouais. C'est plus que 20. On a toujours dit que 20, c'était un peu la limite. Alors, on sait pas trop, hein. Est-ce que ça va rester à 21? Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que cette fameuse barrière de 20 explose. Dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que d'ici quelques années, on va pas avoir 22, 23, 24? Ouais. Et forcément, ça pose des questions sur l'organisation. On l'a dit, en plus, il va y avoir les essais privés en plus. Voilà, ou bien, là encore, ce vieux problème, cette inquiétude qu'on a, est-ce que ça va pas repasser à 20? Et comme d'habitude, si ça repasse à 20, bah, qui sait qui va sauter?
Le Canada.
Ah, eux, ils ont un contrat pour l'an prochain.
Jusqu'en 2014 inclus, mais oui. Rien après ça.
Ah, c'est le Grand Prix de France. Comme d'habitude, c'est toujours le Grand Prix de France qui saute. Chaque année, il y a un nouveau Grand Prix. Et chaque fois,
en
c'est
plus
Grand Prix
du 21 Grand Prix, il y a aussi des pourparlers qu'on va commencer au Bahreïn.
Au Bahreïn, oui. Ça paraît très probable.
Oui.
Par contre,
C'est ce qui est le plus symbolique, c'est que aujourd'hui tout le monde est un peu surpris de cette date de marque qui est très précoce. Amusez-vous à regarder les calendriers début des années 2000, de la fin des années 90. C'est à ce moment-là de l'année qu'on commençait début mars. C'est vraiment ces dernières années qu'on s'était un peu décalé au fur et à mesure des semaines. Et là, on reviendrait à se poser il y a 10-15 ans. Sauf qu'il y a 10-15 ans, il n'y avait pas 21 Grands Prix, il y en avait 16-17. Donc c'est vraiment dire qu'il y a une densité de la saison qui est de plus en plus grande.
Oui.
Par contre, il y a 15 ans, on finissait pas fin novembre.
Non.
Oui, et là, on voit on a la trêve d'été de 3 semaines. On en a une autre 7 semaines. Donc, on en met de plus en plus avec de plus en plus de pauses pendant l'année. Ça va devenir un championnat à l'année longue. Je pense que c'est pas ce que le monde y veut. Parce que si on met le Bahreïn au début mars pour garder l'Australie mi-mars, parce qu'on veut pas trop le retarder, parce que le plus qu'on le retarde, le moins de soleil qu'on a.
Ah oui, parce que eux, ils vont vers l'hiver à ce moment-là, donc on peut pas décaler l'Australie trop loin.
À moins que l'Australie soit forcée d'installer des lumières et que ça devienne une course soit nocturne ou comme à Abu Dhabi.
Pas au couchant, hein.
Après, ce qui peut être intéressant avec 21 Grand Prix, c'est que aujourd'hui, on a clairement un début de saison qui est assez lent, un peu comme depuis 10-15 ans, on a un Grand Prix toutes les deux semaines et compagnie, enfin généralement, voire un Grand Prix toutes les trois semaines. Là, c'est vrai que cette année, c'est exceptionnel parce qu'on a, là, il y a trois semaines, après l'Allemagne, la Grande-Bretagne, il y a une semaine, mais entre l'Allemagne et la Hongrie, il y a trois semaines, après il y aura un mois.
C'est particulier parce que normalement, il y aurait dû y avoir un Grand Prix.
Oui, normalement, il va y avoir un autre Grand Prix. Mais par contre, à partir du mois de septembre, on a quasiment la moitié du championnat en trois mois. Donc, effectivement, en augmentant le nombre de Grand Prix, ça fera peut-être un début de saison, peut-être un peu plus consistant, et une fin de saison.
La Russie, a priori, c'est en fin d'année, et New Jersey, ce sera l'été.
Ce sera au mois de juin. Ce sera comme c'était prévu cette année. Voilà. Donc il y aura sans doute un Grand Prix de la fin d'année qui ira peut-être en début d'année. Pourquoi pas l'Inde, la Corée.
L'Inde, à la limite, ça pourrait être logique.
L'Inde, ça pourrait être logique, parce que ça ferait par exemple Bahreïn, Inde, Australie. Ou Bahreïn, Australie, Malaisie, Chine, Inde. Ou alors la Corée dégage.
Il y a personne qui aime ça.
C'est vrai, tiens, je me dis ça va être une catastrophe, mais en effet peut-être que tout simplement la Corée va dégager. Et dans ce cas-là, tout le monde sera content.
Et je peux rajouter un peu, un petit drapeau contre Canal+, parce que en dehors du Grand Prix que j'ai pu voir en direct, avec un différé qui se faisait au fur et à mesure du direct, parce que bon, j'ai une connexion voilà qui est hasardeuse, j'ai vu tout le reste du week-end en replay, et je voudrais simplement dire à Canal+, ça serait bien que les replays ne portent pas tous le titre Grand Prix du Canada, parce que du coup, quand vous cherchez un peu des trucs, tombez sur la qualif alors que vous cherchez les essais libres 2, voilà, vraiment lire le résumé d'information. Donc quand on télécharge dans le replay, ça serait bien Canal+ qu'on aille Grand Prix du Canada EL1, Grand Prix du Canada EL2, Grand Prix du Canada EL3, Grand Prix du Canada qualif et Grand Prix du Canada course. Parce que sinon, on a l'impression d'avoir quatre fois le même fichier et c'est juste pas possible. Enfin voilà, c'est chiant quoi. Donc, c'est un petit détail, mais ça, c'est un détail qui compte.
Très bien, messieurs. Bien, je vous propose de passer à la course et comme d'habitude, on va commencer par les qualifs. Une qualif donc sous la pluie, bien sous la pluie d'ailleurs.
Pas vraiment. À moitié. Et à moitié, on a vu même la partie sud de la piste sec et partie nord bien détrempée.
Mais d'ailleurs, on voyait bien à la télévision la ligne qui séchait, à vrai dire, assez vite, oui. Mais qui se remouillait aussi très vite.
Alors, nos deux guignols de la semaine, eh bien, oui, malheureusement, il y a Romain Grosjean, 19e. Avec quand même finalement un petit avantage à la situation, c'est qu'il a presque effacé sa pénalité de 10 places, puisque ça n'a pas finalement changé grand-chose.
Ça permet d'économiser des pneus, enfin même si tout le monde en a économisé, mais on sait jamais quand même, il y avait peut-être un risque de pluie, puis ça offrait la possibilité.
Il peut aussi avoir eu un réglage beaucoup plus sec en attendant le dimanche qui les prévisions étaient pour le sec. Fait que...
Sinon, on a Paul Di Resta qui lui aussi n'a pas passé la Q1, qui a fini 17e.
Paul Di Resta qui avait fait la surprise en faisant meilleur des essais libres 1. Même si, c'était sous la pluie, donc ça ne voulait pas forcément dire grand-chose non plus.
En Q2, eh bien, Felipe Massa s'est retrouvé à la 16e place. C'est-à-dire qu'il a eu encore un accident.
Et d'ailleurs, un peu le même type de choc. Enfin, non, c'est-à-dire que pas frontal, mais c'est vrai qu'au Canada, c'était un choc frontal, puis un choc latéral. Là, il a eu que le choc latéral.
Mmh. Oui, mais dans la même direction qu'il a eu à Monaco, donc de son côté gauche.
Ça en fait trois, quand même.
Ouais, voilà, c'est ça, ça fait trois à la suite. À la 15e place, on trouve Gutiérrez sur sa Sauber. Jenson Button, 14e seulement sur la McLaren. Devant Maldonado à la 10e place, Sergio Perez, donc déjà le week-end McLaren pas extraordinaire, à la 12e place, et Hülkenberg à la 11e en Q3, et Ricciardo à la 10e place. Et ça devient presque une habitude quand même, la Toro Rosso. Quand on regarde quand même depuis le début de saison, il y a quand même régulièrement une Toro Rosso en Q3. Raikkonen à la 9e place, Sutil 8e, Jean-Éric Vergne 7e. Encore une fois, qui a été très très impressionnant. Tu l'as souvent dit, t'as souvent parlé des qualités de Jean-Éric Vergne sous la pluie. Et il a d'ailleurs, je crois que c'est après la course, il a dit que il avait des réglages secs. Même samedi.
Ben oui, il a dit, en fait qu'il était, il avait été un peu déçu de sa qualif parce qu'il pensait pouvoir faire la troisième, le troisième temps. Mais en fait, il avait compris pourquoi avec la course, parce qu'ils avaient une super bonne voiture pour la piste sèche.
Donc ils ont fait le bon choix, Vergne. Excellent choix. Alonso, 6e. Décevant,
Alonso. Mmh. Ouais.
Marc Webber, 5e. Nico Rosberg, 4e. Donc non, il ne fera pas une pole supplémentaire consécutive. Bottas, en effet, qui a été la sensation quand même de ses qualifs. On a compris pourquoi.
Ouais.
Oui, apparemment, lui, il a vraiment une voiture raide les pluies à fond. Et donc, sur la première ligne, Hamilton, 2e, et Vettel. Ça faisait longtemps, j'ai envie de dire, quasiment. Vettel à la première place.
Ça faisait 4 Grands Prix, 5
Ça
grands...
fait beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. Pour un coup, c'est long.
Qu'en effet, au niveau des pénalités, Grosjean, donc, qui était 19e, a été rétrogradé 10 places, hein, ça c'était sa pénalité qu'il a eue à Monaco. Raikkonen et Ricciardo ont été rétrogradés de 2 places pour avoir gagné des places par rapport à l'ordre d'arrivée au bout de la voie des stands lors de la reprise des qualifs. Donc après le drapeau rouge,
ouais.
Le drapeau rouge qui était après l'accident de Massa, non ? Je confonds peut-être.
Est-ce que c'est Massa ?
Je pense que c'est à la fin de Q2.
Et c'est l'accident de Massa ?
Oui, je pense mal.
Parce que j'ai que lui en tête, en fait, gros accident sur la Q2, donc pour que ça ait fait un drapeau rouge.
Ouais, donc c'est lui, hein, c'est ça.
Donc en effet, c'était rock'n'roll la sortie de stand quand même, au niveau, lors de la sortie du drapeau rouge. Et voilà, faut pas se mettre en double file, normalement, il faut rester dans l'ordre d'entrée. Bon.
Oui, d'accord, en fait, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une subtilité, c'est-à-dire que normalement, il faudrait être en file indienne. Sauf que la double file est possible dans la mesure où la réglementation prévoit que les pilotes peuvent se mettre sur une file à part pour faire des simulations de départ. Donc il y a deux files, mais par conséquent, comme il y a implicitement deux files qui sont autorisées, la troisième file n'est pas autorisée, surtout pour gagner des places. Et c'est le problème.
Ça commençait à voir un peu le NASCAR.
C'était quasiment
la sortie des puits.
Un mini départ de F1, quoi. Ils étaient tous là.
Mais même Fébro, sur la bus, ils se trouvaient à dire, mais j'ai l'impression de commenter un Grand Prix, un départ Grand Prix, ce qu'il ne fait jamais d'ailleurs. C'est pas à quoi ça ressemble. Mais et c'est vrai que c'était une image assez saisissante. Mais
et c'est vrai qu'au
temps,
Canada, c'est pas
aussi...
la première fois. Il y a la place pour qu'il y ait deux voitures à la sortie, en tout cas. C'est pas là, c'est...
Oui, de même, enfin, trois. Mais sur la sanction, je sais que sur Fan F1, il y en a certains qui ont trouvé que la sanction était un peu injuste. Bon, d'abord, on va retirer l'argument, c'est-à-dire que c'est fait pour avantager Alonso et Vettel, qui n'avaient pas besoin de ça, puisque quoi qu'il arrive, Raikkonen était derrière. Et puis ensuite, il faut quand même rappeler que c'est quelque chose qui se passe dans la voie des stands, et que s'il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher à la FIA, c'est d'être laxiste dans ce qui se passe dans la voie des stands. Et c'est vrai que tout incident dans la voie des stands est généralement très vite sanctionné et pas lourdement, mais en tout cas fait l'objet quasiment systématiquement d'une sanction de la part de la FIA, que ce soit une roue mal vissée, un quinquain renversé, quinquain qui traverse la voie des stands est pénalisé d'une amende. Tout est vraiment très très contrôlé parce que c'est quand même un endroit où il y a des photographes, où il y a des gens qui eux ne sont pas là pour prendre un risque, et que donc une manœuvre de dépassement dans la voie des stands et compagnie, tout ça c'est interdit.
J'ai été étonné que Rosberg n'est rien, il a clairement gêné d'autres voitures.
Oui,
qu'un peu,
légèrement. Oui.
Oui, il a fait un peu marre arrière, d'ailleurs. C'était la tribune où ce que j'étais le samedi. Il était directement en face de nous. Fait que il s'est mis de travers.
Hein?
Il a fait marche arrière un petit peu. Oui, il a bloqué du monde, mais c'est que tout le monde était en arrière de lui.
Et ça, le truc aussi à comprendre, c'est qu'il part en tête à queue. Je pense qu'il regarde derrière, qu'il voit qu'il y a un top paquet de voitures qui va passer derrière, donc il veut s'avancer, sauf qu'il ne voit pas qu'il y a une Ferrari, la Ferrari d'Alonso, qui passe à l'intérieur, et il manque de s'accrocher avec la Ferrari à l'intérieur. Mais je pense tout simplement parce que c'est par une bonne intention là-bas, c'est-à-dire qu'il essaye véritablement de dégager le chemin aux mecs qui viennent derrière lui, sauf que, il y a Alonso qui est en train de passer devant lui. Donc ça a été un moment assez chaud de la qualif.
C'était donc la 39e pole pour Sébastien Vettel, ça commence à faire beaucoup, 49e pour Red Bull et la 205e pour Renault. Et donc après un samedi gris et un vendredi gris, dimanche, comme par magie, le ciel s'est éclairé.
Comme par magie, comme par magie Senna, comme par magie Johnson, comme par magie System. Je dis, il se met canadien.
J'aurais plutôt dit à la mode Fab, mais c'est pas grave.
Oui, non, mais femme, c'est des liaisons qui l'aiment mal. Toi, tu inventes des syllabes au bout des mots.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Donc, le beau temps est apparu pour la course. Et nous allons donc passer à notre célèbre top 10. Et donc?
Oui, et d'abord, au top 12. Des pilotes qui sont vraiment en top 10.
Je dirais même.
Le pas top 10. Le top 10 des pilotes qui sont le top 12 des pilotes qui sont pas dans le top 10. Avec d'abord en 22e position, Max Chilton, qui marque 11 points.
Et j'en profite d'ailleurs de ce 11 points pour vous signaler que nous sommes aujourd'hui le 11 juin, au moment où nous enregistrons. Nous venons juste de passer les minuit. Nous sommes le 11 juin et c'est l'anniversaire d'Elder.
Bon anniversaire.
Donc Max Chilton, dernier donne de classement, 21e Ricciardo, 29 points pour une 21e position. En 20e position, nous avons Esteban Gutiérrez, 34 points. Devant lui se trouve Pastor Maldonado, 19e avec 40 points. À noter, je ne l'ai pas dit, que le vainqueur, dont l'identité reste mystérieuse, et a collecté 1639 points, un beau résultat en sachant que vous avez eu moins de temps qu'à l'actumé pour voter. Nous avons ensuite Hülkenberg, 18e avec 48 points. 17e Sergio Pérez, moins en verve. Monaco ne marque 50 points dans vos classements. Charles Pic nous offre la baguettette de 69 points pour la 16e place. Guido van der Garde, 15e, a arraché sa moustache, ou a arraché la moustache plutôt, de Mark Webber, ce qui lui a rapporté 81 points. Bravo Guido, tu as gagné plus de Mark Webber. En 14e position, nous avons Jenson Button avec 141 points, l'écart se creuse. En 13e position, Adrien Thiel avec 152 points. En 12e position, l'étincelle Valtteri Bottas avec 174 points et Mr. Eleven cette semaine. Il est de justesse Mr. Eleven, mais il est assez loin de top 10. C'est Jules Bianchi avec 184 points.
Alors on notera, Dino, que tu as donné 6 points à Sutil.
Moi j'ai trouvé ça merveilleux. Moi ce petit tête à queue qui est repris, je fais deux tours sur moi-même, je passe à côté des autres voitures, les autres voitures passent dans l'herbe, je repars tranquille. Et puis il a fait une fin de course avec l'aileron arrière de Magie, il a fait une très belle course avec quand même des dégâts sur sa voiture. Il faut une paire de coronets de chameaux pour pouvoir oser faire ça, donc bravo à lui. Qu'il en profite, c'est pas souvent que je lui donne des points.
Sinon, Bert, tu as donné 4 points à Button.
Mais malgré les problèmes qu'il y a eu à la qualif, il s'en est sorti un petit peu. Il a fait de son mieux, fait que je me sentais un peu mal donner le drive-through à McLaren, donc un petit upvote pour Button. Ouais, un petit peu.
Mais la pitié pour Button, pas pour Pérez.
C'est bien.
Non. Tu pourrais pas avoir de la pitié pour d'autres pilotes. Tu sais, genre.
Genre Villeneuve.
Non.
Genre. Oh non, c'est vrai, t'as dit pilote.
Beaucoup plus jeune.
Sinon, tous les trois, on a donné quelques petits points à Valtteri Bottas. Moi et Dino, on a donné un point. Bert a donné 2 points. Donc, principalement, c'est pour sa qualif. Hein. Parce que bon, sa course. Hein,
Exact.
Voilà.
Et même sa qualif, c'est-à-dire que moi sincèrement j'ai mis un point parce que je me voyais pas ne pas le mettre non plus, parce que ça aurait été mesquin de pas le mettre. Mais en même temps, sa qualif, j'ai envie de dire, certes c'est bien de faire une troisième place, maintenant le mec il a une voiture qui règle les pluies, là où les autres avaient plutôt un compromis, voire une voiture réglée pour le sec. Où est véritablement le mérite pilote quand t'as une voiture qui est vraiment taillée sur mesure pour les conditions de piste qu'il avait. Et à ça s'ajoute aussi le fait que je trouve, autant la course, je suis pas très fan des courses sous la pluie, mais bon, autant à la limite c'est le jeu de la course. Autant les qualifs, moi je dis, alors les qualifs sous la pluie, il faudrait dans la mesure du possible qu'on évite, parce que c'est inintéressant et il y a trop d'aléas, il y a de c'est pas normal que Bottas soit 3e et que Grosjean soit 19e. Voilà, c'est pour moi il y a quelque chose qui m'échappe en termes de performance. La qualif devrait être un exercice de performance. Quand c'est Pirelli, tout le monde gueule que les performances ne sont plus là. Quand c'est la pluie, tout le monde bravo. Non, moi les deux me dérangent. Moi, voilà, je regrette vraiment ces qualifications sous la pluie. Et Bottas, c'est bien ce qu'il fait, mais maintenant c'est pas non plus transcendant, quoi.
Mais il y a pas grand chose qu'on peut faire pendant une journée pour déplacer ça. On a les télévisions et ainsi de suite. Venir à des qualifications sur 2 jours avec un temps cumul ou un meilleur des deux et
j'en ai rien à foutre, on se débrouille. Je veux plus de pluie. Course avant la
qualif'.
Tu fais la course sous la pluie, tu dis bon, les gars il pleut, bon c'est pas grave, on annule la qualif, on fait la course. Et demain on fera la qualif s'il fait beau, et là on appliquera un barème et compagnie, et voilà.
Alors, 10e, il a marqué 231 points. Peur que tu lui as donné 6 points, c'est Romain Grosjean.
Oui, il a grimpé de 8 ou de 16 places, dépendamment comment tu veux le calculer. Il a-tu roulé long premier relais?
Il était dans les points, il avait quand même réussi à atteindre les points.
Le laps de temps de
son deuxième run a été très court, ça a été assez surprenant d'ailleurs.
C'est là où on a vu que la puce avait pas grand chose à proposer vraiment sous Ken, parce que il a fait ce qu'il pouvait au début, même si la Lotus a pas autant tenu les pneus que par exemple la Force India de Di Resta, qui a fait 56 tours avec les pneus médiums, et encore il a réussi quand même à claquer sur la fin de son relais le meilleur temps avec les pneus médiums, là où d'autres avaient les pneus médiums en fin de course plus légers et compagnie. Donc c'est dire vraiment que la Force India avait de la réserve là où la Lotus semblait pas du tout au niveau avec les pneus. Et derrière, bah oui, ça a concrétisé notamment avec le super tendre où là, ça a pas.
Il a passé à travers, mais de ce qu'on sait, c'est que la Lotus marche bien dans les virages à haute vitesse. Montréal, il y en a pas. Donc, c'est peut-être des réglages de base ou de.
En plus, apparemment, ils aiment les températures de base. C'est pas non plus super chaud non plus. Ça n'aidait pas. Hein.
Ouais. C'est ça.
Sur le Grand Prix là, c'est la conjonction de circuit plutôt accélération freinage avec des enchaînements rapides mais lents, des chicanes, des enchaînements peu considérés comme rapides et violents mais lents, et puis des températures basses. Voilà, c'est...
Ouais. Et une consommation des pneus qui n'a pas été. Enfin, on n'en a pas parlé ce week-end, quoi. Donc, ça, l'avantage qu'ils avaient. Pas servi cette semaine.
Ouais. Ouais, en plus c'est vrai que c'est un circuit qui est très peu abrasif. Donc, voilà, c'est un ensemble de choses où déjà dès le départ ils savaient qu'ils allaient souffrir et.
Pouvait penser, moi je le pensais en tout cas, si s'il y avait eu des chaleurs, on aurait peut-être eu les mêmes problèmes qu'en Espagne avec beaucoup d'arrêts de pneus. Ça n'est pas arrivé.
Ouais.
À la 9e place, eh bien, c'est l'autre pilote Lotus, 370 points, Kimi Räikkönen. Alors moi je lui ai donné juste 2 points, mais Burke tu lui as donné 10 points. La pitié encore.
La pitié.
Oui. Mais il y a eu un arrêt au puits désastreux où ce qu'ils ont échappé le lift arrière. Il y a eu des problèmes de consommation de carburant. On lui a demandé de réduire sa consommation, mais de garder sa place.
Il a tout eu.
Il y a eu des problèmes de frein. Ouais. La Lotus fonctionne pas bien avec des courbes lentes. Je pense qu'il a fait une bonne job pour gérer sa course, qui me surprend beaucoup de Kimi cette année. Il est capable de faire de la bonne gestion de course, de comprendre c'est quoi le grand portrait et de s'en sortir.
Et il a réussi son corps. Lui s'en fout, sans doute. Mais voilà, il a égalé Schumacher. Il a réussi quand même à marquer des points. C'était pas gagné, franchement, vu ce qui lui est arrivé. Mais il a réussi.
On peut quand même lire sur Räikkönen, faudrait juste que Jacques Villeneuve se calme un petit peu. C'est pas parce que Räikkönen fait 2 grands prix moyens que d'un coup ses espoirs de championnat sont morts, lui enterrés à 6 pieds sous terre.
Si à Silverstone ça s'améliore pas, faut avouer quand même que voilà.
Là on pourra le dire. Mais bon, c'est vrai qu'il fait 2 grands prix difficiles, quoique à Monaco il fait un bon grand prix. C'est derrière il y a un accident et il le paye, il prend qu'un point. Quiconque connaît un petit peu la F1, connaît un petit peu Lotus et compagnie, sait très bien que cette situation c'était pas 2 circuits où ils étaient eux favoris et où Ferrari était favori. Donc c'est plus sur effectivement la suite de la saison qu'on va attendre de les voir, et c'est là qu'on aura vraiment jugé si Räikkönen a véritablement une chance. C'est un peu tôt, je trouve, que de compter sur ces 2 entre guillemets mauvais résultats pour dire bah ouais, c'est la fin, les carottes sont cuites, quoi. Ouais, non.
Mais ça devrait être dans ce cas-là idem pour Alonso.
Sincèrement, si Kimi Räikkönen ses espoirs sont cuits, qui peut espérer être champion cette année à part Vettel?
Je crois que Vettel il est en train de rire.
Oui, voilà.
Il est en train de voler la saison, mais on va y revenir.
8e place, il a marqué 488 points, c'est Nico Rosberg. Il nous a fait une course à la Rosberg. Je lui ai donné 4 points, je sais même plus pourquoi. Sans doute parce que, voilà, Dino, tu lui as donné 2 points.
Bah ouais, encore une fois, je suis même pas sûr que c'est une course à la Rosberg. Une course à la Rosberg, rappelons quand même la définition, c'est une course brillante,
bonne,
mais anonyme.
Bonne,
mais anonyme. Mais là, je suis pas sûr qu'il ait fait véritablement une bonne course. Je pense que...
Fini 5e.
Ouais. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on
a l'impression... Faut dire aussi, il était dans un peloton, on y reviendra, mais bon... Weber, Rosberg, Verne, c'est pas pour être méchant, c'est pas ceux qu'on a le plus vu ce week-end.
Oui, non, hein. mais en même temps, voilà, il est dans son là, pourquoi, ce qui est étonnant avec Mercedes, c'est qu'on a l'impression que chaque week-end, il y a une voiture qui marche bien et une voiture qui marche pas bien. Enfin, voilà, depuis Bahreïn, on n'a jamais l'impression qu'il y a les 2 voitures qui sont sur le même créneau. On a toujours l'impression qu'il y a une qui fait n'importe quoi, une qui marche plutôt pas trop
mal. Au final, ça les arrange. Parce que imagine ce qui serait passé s'ils avaient archi dominé le Grand Prix du Canada.
Oui.
Le Super Soft et Nico a seulement fait 14 tours. Par contre, Nico, il a fait un peu de découverte pour Lewis. Ils ont remis du super tank d'un relais et 4 ou 5 tours par Hamilton, il rentre puis on lui met du médium. Fait que c'est deux stratégies complètement différentes puis au mieux c'est deux stratégies puis on s'asseye ou le premier arrivé on va voir si le super tendre il continue à durer puis ah non il dure pas Lewis tu vas avoir du médium
mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un grand prix un pilote, un grand prix l'autre. Je trouve ça assez étonnant.
Rosberg est un des rares à avoir fait 3 arrêts, si ce n'est peut-être même le seul.
Oui, je suis en train de voir ça. Il y a aussi il y a Vandergaard qui a fait
le Vandergaard
exact.
Il a pas fait que des arrêts pour changer de tout. Il y avait d'autres choses à changer sur sa voiture. Il y a que le pilote. Ouais. Il faut peut-être essayer de changer le pilote directement.
Ah, c'est peut-être.
Il y a peut-être une opportunité.
À la 7e place, il a marqué 586 points et lui, c'est tout le contraire. Il n'a fait qu'un arrêt. Et en même temps, si le règlement ne l'obligeait pas, peut-être qu'il en aurait fait 0.
Ah ouais, parce qu'il fait un premier relais, 56 tours en médium.
C'est monstrueux.
Ce ah ouais.
C'est Paul Di Resta. Alors, je lui ai donné 10 points. Dino, tu lui as donné 8 points. Bert, tu lui as donné 18 points.
Oui.
Splendide. Donc, splendide ce qu'il a fait.
C'est fantastique. Et, dans les conversations de radio, on va revenir à un point qu'on a discuté plus tôt. On a dit à Di Resta, continue jusqu'à temps que tu veux, conduis comme tu veux, gère-les, dis-nous quand tu vas rentrer.
Et il faisait encore de très bons temps quand il est rentré, hein. Ses pneus étaient pas non plus morts, quoi, quand il est rentré.
Oui, en effet, je pense que j'ai entendu, il a dit, le dernier tour, il a baissé de 4 dixièmes, puis il a dit, OK, c'est le temps.
Dino?
Que dire? Une mauvaise qualif, une très bonne course. Alors après, est-ce que les deux sont peut-être liés. Peut-être qu'en qualif, il avait un réglage pour le sec. Vraiment, pour la course, et qu'en course, il avait une excellente voiture. C'est difficile à savoir. Mais ouais, un premier relais, absolument.
C'est celui qui a gagné le plus de places cette semaine, je crois.
Ouais.
Plus 11.
Ouais, c'est quelqu'un qui a rapporté beaucoup de points au Fantasy F1 ce week-end. mais ouais, non, voilà, c'est... Puis, encore une fois, c'est Di Resta. C'est pas forcément flamboyant, mais le résultat est là. Là où peut-être dit, c'est peut-être un peu plus flamboyant, mais c'est aussi tendance à être un peu moins flamboyant à l'arrivée, quoi. Di Resta,
oublions pas qu'il y avait un problème de DRS au début de la course, puisqu'on lui a demandé de faire un reset de quelques paramètres à partir de son volant.
On a une équipe qui réfléchit, hein, qui pas son pilote à utiliser le DRS comme
juste
il veut. Qui lui dit juste, écoute, fais manip, on va contrôler le truc et puis après tu pourras le remettre.
Comme c'est bien, au moins ils auront passé un bon centième grand prix chez Force India.
Mais en même temps, on se saurait dire qu'ils auraient pu faire mieux parce que celui-ci se qualifie bien, mais il fait course très très vite rendu difficile et Di Resta se qualifie mal, mais fait une super. Donc c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de se dire, et si Di Resta était parti un peu plus haut avec la stratégie qu'il avait, il pouvait peut-être faire quelque chose. Donc il y a quand même un petit goût amer derrière ce centième grand prix qui est un bon grand prix, mais qui aurait pu être tellement mieux.
Mais c'est un peu ça, Force India. On sent que ça dépend en fonction des années, mais ils sont juste en dessous. On sent qu'ils manquent pas finalement grand chose. Surtout qu'ils ont un bon moteur. Le châssis, quand même, on voit que c'est une écurie qui progresse. Il manque encore ce petit truc, voilà.
Et surtout, assez étonnamment, ils creusent l'écart sur McLaren.
Oui. Ils sont plus réguliers.
Depuis plusieurs semaines, ils n'arrêtent pas de dire, ça va être dur quand même de résister à McLaren et compagnie.
C'est normal.
Oui, non, mais c'est tout, même de toute façon, tout le monde le dit. Enfin, quand on demande aujourd'hui l'objectif, la place voit McLaren, ça sera la 5e place constructeur derrière les 4 écuries de pointe et puis c'est tout.
Mais qui sait?
Sauf pour le moment, ils sont 6e et ils perdent du terrain sur Force India et surtout, on voit pas de dynamique, on voit pas de, on voit pas les cours qui se rapprochent. On voit Force India qui est globalement un peu plus performante que Mercedes, que McLaren, et McLaren qui n'arrive pas à développer sa voiture, à apporter de nouveautés, compagnie, en tout cas qui n'arrive pas à suffisamment le faire.
Passons à la 6e place, messieurs. Il a marqué 616 points. C'est le coéquipier de celui qui a gagné la course. C'est Mark Webber.
Il paraît qu'il était là aussi.
Alors Webber, tu lui as donné 4 points, je lui en ai donné 6. Bert, tu lui as donné 12 points. Bah tu vois, moi je l'ai dit, hein, il fait partie un peu de ce paquet là, des gens voilà qui sont bien classés au final, mais qu'on n'a pas beaucoup vu finalement.
Ah, Webber, si tu lui as donné 12 points à Webber, je suis curieux de savoir combien de points tu as donné à Sébastien Vettel.
J'en suis sûr. Non, il y a eu son accrochage. J'ai vu une bonne partie de son aile gauche qu'ils ont pas remplacé pendant son arrêt au puits parce qu'il y avait un autre arrêt au puits.
même style.
À faire.
Ils sont super travaillés et quand on les défonce, ah bah c'est drôle, ça marche tout aussi. Hein.
Et on se demande pourquoi qu'Adrian Newey
a oui. Mais sur la course de Weber, enfin même globalement sur le week-end de Weber, il n'y a pas de surprise, c'est un peu comme d'habitude. C'est en retrait par rapport à Vettel. C'est bon, mais c'est pas un étincelant. Moi, sincèrement, j'ai cru qu'il allait pouvoir se faire Hamilton sur la fin. J'ai cru qu'il allait pouvoir concurrencer Alonso. Et j'ai l'impression que dès qu'Alonso est passé, il a rompu un peu les armes. Il a fait illusion un ou deux tours derrière. Et puis après, bah voilà, il finit sur la fin de course. Il prend quand même une dizaine de secondes par an, quoi. Donc, ouais, une course à la Weber, quoi. Alors que par contre, il prend pour le coup. C'est rare.
C'est un très bon départ. Trois, un très excellent bon départ. Départ. Bah, quand on n'a pas de problème Kers ou
non, quand on a un Kers, ça marche beaucoup mieux.
Ça marche mieux. Et écoute, je te propose dans ce cas de passer à la cinquième place et peut-être que ça t'inspirera plus, puisqu'avec 989 points, c'est un pilote Red Bull, mais de la filière Red Bull, puisque c'est le pilote Toro Rosso, Jean-Éric Vergne, qui signe son meilleur résultat.
Le meilleur résultat de Toro Rosso depuis l'ère Vettel. Donc, oui, c'est un résultat qui compte.
Je lui ai donné 8 points, comme Bert, et toi, tu lui as donné 12 points. Donc, il y a, on l'a dit, il y a la qualif qui est très impressionnante. Mais après, bah voilà, avec Toro Rosso, il arrive quand même à
être dans le pas très, très optimiste après les qualifs.
Bah non, parce qu'il se dit, voilà, j'ai une Toro Rosso, je suis entouré de McLaren, de
et Ferrari. Puis, on a vraiment l'impression, c'est vrai qu'on va quand même rappeler qu'ils ont quand même fait très peu d'essais. Enfin, c'était assez peu concluant, tout ce qu'ils ont fait ce week-end. Donc, on avait un peu l'impression d'avoir un pilote qui se fiait à la tendance générale, qui est, bon, bah, ouais, je fais 7e sous la pluie, mais bon, généralement sur le sec, on est un peu moins bon. Moi, je suis un peu moins bon sur le sec. Enfin, je suis un peu meilleur sur la pluie, donc théoriquement, je devrais rétrograder. Et en fait, non, il a fait une course. On peut pas dire qu'on a vu grand chouï, mais il a fait une course extrêmement solide.
Ça, il faut le dire.
Non, il a fait ce qu'il fallait faire au début de la course, puis après, bah, il a croisé son petit écart, il a fait sa course. Là, pour le coup, moi, j'ai envie de dire une course à la Rosberg, parce que c'est une bonne course qui paye. Voilà.
Et espérons qu'elle paiera.
Ouais, mais ça c'est pareil. L'avenir. Enfin, maintenant, il va falloir falloir qu'on se calme là, quoi. Il a fait deux bonnes courses, d'accord. Ricciardo était dans la tête d'Helmut Marko, c'était lui et pas Vergne.
Et rien dit que voilà, ça va pas le passer sous le nez.
Moi, je suis toujours prudent parce qu'il suffit qu'il fasse deux mauvaises courses et enfin qu'il rentre un peu dans le rang dans les prochains Grands Prix et on en parlera. Parce que là, c'est bien, mais il faut concrétiser encore. Sincèrement, c'est pas surprenant. Sous la pluie, il est généralement bon. Il est aussi. Je trouve que contrairement à Ricciardo et contrairement à pas mal de pilotes, contrairement à pas mal de jeunes pilotes surtout, il est bon dans les situations un peu précaires, que ce soit sous la pluie ou quoi. Donc quand le week-end se déroule pas normalement, il est bon sans préparation. Là où on a un peu l'impression que les autres sont meilleurs parce que ils savent mieux exploiter aussi le temps qu'est à leur disposition et compagnie, voilà.
Puis il a aussi beaucoup joué, je trouve. Il est souvent arrivé des trucs quoi. Aux courses font que voilà, il reculait,
il a abandonné. Aussi des choses parce qu'il se qualifiait mal. Ah oui. Là, il se qualifie 7e, en comptant Bottas, oui, il pouvait espérer la 6e place. C'est ce qu'il a fait, il a pas fait de bêtises. Puis c'est aussi ce que disait c'est ce que dit Alonso et il a dit ça aujourd'hui, ça fait du bien de se battre contre des pilotes intelligents. C'est vrai que quand tu te bats contre Lewis Hamilton, Weber et compagnie, tu te bats contre des mecs qui ont quand même un peu plus de jugeote que sans faire un jeu à Bottas qui est pour moi je trouve qu'il est un très bon pilote mais bien surpris que Bottas, que Van der Garde, que Gutiérrez, que Hülkenberg et compagnie, c'est pas des mêmes calibres.
Voilà, Bottas en même temps il était dans une situation qu'il avait vraiment pas l'habitude.
Mais Bottas a très bien géré, voilà. Sincèrement pour un rookie qui plus est comme lui, quelqu'un qui n'a jamais fait le GP2, n'a jamais fait le World Series by Renault, mais qui vient du GP3 et qui n'avait plus fait de compétition l'année dernière, se retrouver après 7 Grands Prix en Formule 1 entre Hamilton, Alonso, Weber et compagnie.
Et il a les épaules larges, le bébé. Hein. Raikkonen, habituellement, a le profil du bûcheron finlandais, mais non, 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 c'est Bottas qui a le profil du bûcheron finlandais.
Alors, moi, j'aurais une question pour Bert.
Si.
Quel regard tu portes sur les pilotes français, de manière générale? Est-ce que vous, au Canada, il y a un soutien particulier pour ces pilotes-là? Ou est-ce que pour vous, c'est des pilotes comme les autres? Et puis, toi, personnellement, quel regard portes? Est-ce que tu soutiens les pilotes français ou est-ce que t'as d'autres pilotes qui sont préférés?
Est-ce que tu les trouves bons, mal ou pas?
Je pense pas qu'il y a un appui particulier. Moi, je les vois comme des pilotes comme les autres. Je pense pas que même au Québec ou au Canada qu'il y a une vue comme quoi que c'est quelqu'un de la France qui on devrait l'appuyer plus qu'il faut. Mm-hmm. On a appelé au Québec. On a eu un très grand amour avec Ferrari pour des raisons qu'on connaît bien. Donc, pour ce qui était le plus applaudi pour l'avenir.
C'est vrai que
sur
le podium. Mais... Oui.
Alors, confirme-nous, parce que moi, je veux avoir la confirmation. Vettel a parlé, il y avait bien des sifflets.
Des sifflets à apprendre que les sifflets, c'est pas bon.
D'accord.
Oui.
Oui, ici, voilà, on appelle c'est dans ce sens-là, tout à fait. Oui.
Des...
Donc c'est parce que c'était pas Ferrari ou parce que...
Non, je pense qu'on va y revenir.
Non, mais c'est vrai que c'était quand même surprenant sur le podium, t'as vu, quand Vettel...
Oui, puis même, je pense, Vettel, il a fait un petit commentaire, ou Eddie Jordan a fait un petit commentaire.
Ils ont essayé de dédramatiser un peu la chose, de faire le dos rond, mais c'est vrai que c'est rare d'avoir une réaction du coup aussi négative envers un pilote, qui plus est envers le vainqueur d'un Grand Prix. Mm.
Oui, et surtout le fait que le Canada, on a plus d'intérêt direct dans les F1 et que si on veut, on est perçu comme des bons sportsmen puis des gens qui appuient le fair play, et que le meilleur gagne. Pour moi, c'était un petit peu décevant de ma part, mais je le comprends. On verra absolument d'où ce qu'ils viennent.
On va en reparler.
Et sinon, voilà, sur les pilotes français, globalement, vous les voyez de quel niveau est bon? Est-ce que finalement ils sont terribles, justement,
parce
par rapport à d'autres
pilotes? Parce que vous savez, c'est que nous, en France, on a l'impression que c'est des champions du monde en devenir. Il faut dire ce qu'il y a. On leur accorde une importance. D'ailleurs, c'est pareil, Canal+, il faudrait aussi qu'ils apprennent qu'il n'y a pas que les pilotes français ou que les pilotes qui parlent français. Il y a aussi d'autres pilotes qui ont peut-être des trucs à dire dans les reportages. C'est vrai que donc, du coup, vous les percevez ces pilotes-là? Que Pic, par exemple, vous voyez un bon pilote.
On les perçoit comme... Je le vois comme le pilote qu'il est. Pas pire, pas mieux que ses performances le démontrent. Fait que, il est dans une équipe de fond de grille, mais il roule pas trop mal. Il fait pas trop de gaffe. Il faudrait dire qu'il y a peut-être un de votre 14 que pourrait s'améliorer.
Mais... Alors, on a déjà parlé. Est-ce qu'il serait pas un petit peu suisse, ce pilote?
ça dépend quand il y a des accidents, il est suisse, mais quand il fait des bons résultats, il est français.
Ah, pareil, il est français, le reste de la saison, il est suisse.
Il est un peu souvent suisse, visiblement.
Oui.
Très bien, passons à la quatrième place. Il a marqué 1042 points. C'est Lewis Hamilton. Alors, j'ai donné 12 points. Dino, tu lui avais donné 15 points. Burt, tu ne lui as pas donné de points.
Ah, t'es ça dans trop ton lycée.
Il y avait juste plus de monde que je pensais avait fait des bonnes courses ou qui méritaient d'être à la place que Hamilton.
Ça rassure. Et donc toi, Sylvie, pourquoi tu l'as mis
Non, parce que justement, comme on l'a dit par rapport à Rosberg, il a géré le coup. Après, je sais même pourquoi j'ai mis le temps.
Ça doit être à cause de Roscoe.
Ah non, pas de ça.
Et voilà, ça y est, Lim, on a parlé, voilà.
D'ailleurs, le lien avec l'éphéméride.
Non, oui, je sais même. Enfin, voilà, oui, il a fait une bonne course, surtout par rapport à son... C'est vrai que je l'ai mis... Pourquoi je l'ai mis aussi haut?
Rappelle-nous, tu l'as mis...
Quatrième.
Je ne voudrais pas mieux encore trop. Ça rappelle même plus haut. Genre
troisième. Non. Je l'aurais mis. J'aurais dû le mettre plus bas.
D'accord.
En fait.
Non, moi, je trouve qu'il a fait une très belle course. Après, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est l'ensemble des pilotes? Mais j'ai eu l'impression vraiment de retrouver un peu Lewis, de ce côté incisif, attaquant, dur à dépasser, une belle défense sur Alonso, une bagarre rugueuse. Non, moi j'ai beaucoup aimé la course de Lewis, parce que justement peut-être que les pneus ce week-end, les conditions ont permis de retrouver un Lewis un peu plus vif.
Bah tu vois, c'est exactement ce que je voulais dire.
Puisque 30 services, je dis moi je suis là.
Tu parles si bien.
C'est parce que je parle beaucoup, donc je m'entraîne, en fait.
Mm-hmm. On va passer au podium et à la troisième place. C'est Felipe Massa, avec 1218 points. Je lui ai mis 15 points, comme Burt, tu lui as donné 10 points. Ça a été quand même un des grands agitateurs de cette course.
Oui, c'était le Jean-Pascal de la... Ah, la référence. Alors, excuse-moi, Burt, si tu comprends pas cette référence, mais...
C'est plus mal que tu ne la comprennes pas. Hein. Je préfère te rassurer.
C'est pas la première.
Non, quand même, voilà. Il fait une belle remontée. Il a dépassé des voitures. Que demander
de plus? Il était très incisif.
Oui, hein. à regarder ses qualifiés en 16e. Donc, remontée de 8 places. On doit imaginer que lui aussi était réglé pour le sec.
Je pense que la part est réglée pour le sec, puisque c'était ce qui était prévu. Hein. Faut bien le dire.
Oui, mais si tout le monde était réglé sec, par contre, je viens juste de me faire une parenthèse, parce qu'on parle bien de Massa. Massa qui n'a jamais aimé la pluie. On se rappelle de Silverstone.
Et c'est 14 977 tête à queue.
Oui, il a bien fait sa course.
Mais ce qui est rassurant avec ça, c'est que on pouvait craindre la spirale négative après Monaco et après son accident en qualif. Et en fait, non, il est revenu, il a sorti un très bon Grand Prix. Voilà, c'est rassurant. Ça veut dire que on peut quand même espérer lors des prochains Grands Prix retrouver le Massa du début de saison qui va aider Alonso. Et il a déjà aidé Alonso ce week-end, qu'en dépassant Raikkonen, il permet à Alonso de prendre un peu plus de points sur Raikkonen. En ça, il a été utile. Bon, ça serait bien qu'il soit un peu plus utile, mais il a déjà été utile ce week-end, donc c'est bien.
Stratégie complètement décalée pour Massa, puisque trois relais, les deux premiers en tendre neuf, ce qui fait qu'il a fait la majorité du Grand Prix en tendre. C'est le seul. Ouais. Et le dernier relais. Ouais. En médium usagé.
Tu es bien informé, Shinji.
Faut vous rappeler, il y a, après chaque Grand Prix, un article dédié sur les stratégies du Grand Prix où vous avez indiqué pour chaque pilote les pneus qu'il a utilisés, quand est-ce qu'il a fait, les ravitaillements, les changements de pneus. C'est très pratique. C'est un outil indispensable.
C'est vrai.
Deuxième place, et attention, parce que si vous vous rappelez, le vainqueur a gagné avec 1639 points, le deuxième a marqué 1605 points. Autrement dit, c'est rien l'écart, c'est que dalle. C'est même pas 2%, c'est rien. Rien de rien de rien. Je l'ai mis premier. Dino l'a mis premier. Bert
ne l'a pas mis deuxième.
Ne l'a pas mis deuxième, ni troisième, ni quatrième, ni cinquième, ni sixième, ni septième, ni huitième, ni neuvième, mais dixième avec un seul point. Ça va en surprendre sans doute certains, vu le Grand Prix. C'est Sébastien.
Mais what the fuck?
Parce que Damage était une des personnes qui était en train de le...
Alors voilà, explique-nous, on veut tout savoir.
Ben, il est le même style de Schumacher, où c'est un excellent pilote, mais c'est un sportsman zéro. Je me suis gardé la réserve de lui accorder un point pour... sa domination, on va l'avouer, il l'a complètement dominé. À la fin du premier tour, il y avait une avance de 1,5 secondes. À la fin du deuxième tour, 3,6 ou quelque chose du style. Donc, le DRS pour le deuxième n'était plus une option. C'est garanti. Mais je l'aime pas.
Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est sportivement un zéro?
Ben, c'est de regarder ce qui est arrivé avec Weber, à ne pas écouter des consignes d'équipe. Tu sais, on lui dit assez, c'est assez, puis...
Le traumatisme du non-respect des consignes. Voilà, peut-être que chez les Canadiens, vous dites, bah non, les consignes, faut les respecter parce que ça peut conduire à des drames. Et donc, aujourd'hui, tous les mecs qui respectent pas les consignes, vous les sifflez.
Ben, j'avoue qu'il a fait une fantastique.
En fait, c'est un délit de sale gueule, quoi. Vous l'aimez pas.
c'est exact.
Non, mais c'est bien, c'est honnête. Hein. C'est bien. À la limite, moi, je préfère sincèrement un mec me dit, moi, Vettel, je le mets dixième parce que je l'aime pas, plutôt qu'un mec qui va essayer de me trouver une excuse, dire, ouais, je le mets dixième parce que j'étais pas trop satisfait, c'est un peu déconcentré et compagnie.
Non,
au moins, ça
c'est un con, d'être cash. Voilà, je lui mets dixième.
C'est pas le pifré, je le mets dixième, je l'ai sifflé, voilà, je l'aime pas. Au moins, c'est honnête.
C'est bien.
Moi, je l'adore.
Je l'ai sifflé dans ma tête.
Dans ta tête. Ah, bah, c'est bien. Ça, c'est bon entendu.
Quand même, je l'ai applaudi pour faire paraître, mais dans ma tête, je le sais.
Mais comment, toi, est-ce que tu expliques justement la réaction des gens à Monaco, des gens à Montréal? C'est justement ça? Parce que c'est quand même... moi, j'ai pas souvenir vraiment d'avoir vu un pilote autant se faire siffler. Oui, il faudrait remonter à des épisodes assez sombres, des polémiques avec peut-être...
Michelin à Indy, oui, mais c'est un autre que je donnerais un point. Je ne sais pas pourquoi il y a eu autant de sifflements. C'est peut-être l'aspect international de des gens alentour, bien que je ne veux pas mettre ça sur le dos des autres. On va dire qu'il était canadien ce jour-là. C'est pas vraiment, je pense, c'est pas dans notre nature, si on veut, mais c'était un peu dégoûtant. Mais oui, c'est pour ses actions de anti-sportif.
Non, mais ce qui est surtout étonnant, c'est que il a été sur les podiums ailleurs et compagnie. On n'a pas eu l'impression que ça avait eu plus de ça avait suscité plus de réactions. Là, on a vraiment l'impression que chez les Canadiens, les gens qui étaient sur le circuit, ce qui a pu se passer a vraiment eu un impact fort et vraiment créé une espèce de rejet général contre Vettel. Comment tu l'expliques, toi, qui est Canadien? Est-ce que c'est par rapport à des valeurs canadiennes que vous partagez ou une vision peut-être du sport que vous avez qui serait un peu différent dans d'autres pays et qui expliquerait que vous avez, vous, cette espèce de réaction générale là où dans d'autres pays, on n'a pas fait plus cas de... Bon, après, c'est vrai qu'il a gagné à Bahreïn, qui n'est pas non plus un pays de nature à protester dans les tribunes.
Non, ils savent bien.
Spécifique au Canada, qu'il y a un truc dans la culture canadienne qui peut expliquer qu'il y a ce rejet envers Vettel, ou que ça risque d'arriver à d'autres moments dans la saison sur d'autres podiums.
Cette année, peut-être pas, parce que on l'aurait vu certainement en Australie, c'est sûr. Mais il faut quand même considérer que, surtout au Québec, on se croit très connaissant de la Formule 1. La passion de la Formule 1, ici, on s'en doute pas. Les gradins sont pleins le vendredi, le samedi, le dimanche. On est très connaissant de ce qui se passe dans le sport, en F1 à cause de Jacques, à cause de Gilles, on a toujours pris ça à cœur et c'est peut-être parce que on est bien informé ou on se croit bien informé qu'on a pris le privilège, si on veut, d'agir de cette façon-là.
Et ouais, il y a peut-être un côté aussi indirect peut-être que pour vous, il a voulu se mettre au-dessus de son équipe, au-dessus peut-être de la F1, au-dessus de certaines valeurs de la F1, et que c'est aussi ça qui motive votre réaction. Vous qui êtes effectivement, nous en France, on vous a toujours vu, on a toujours vu les Canadiens comme l'un des grands prix où la passion était la forte et la ferveur populaire était la plus forte autour du Grand Prix. Enfin, je pense sincèrement, si on demande à nos auditeurs de nous dire le circuit où vous aimeriez aller, je pense que Montréal serait
bien
dans les
placé,
deux
oui.
trois pays dans les deux trois pays à vouloir enfin sur le podium. Donc il y a peut-être ça effectivement, que vous, c'est vraiment une passion pour le sport, sauf que peut-être que lui, par ses actes, a tendance à passer au-dessus du sport.
Oui, et c'est surtout le comme t'as dit, où ce que il a ignoré une commande ou même une entente qu'il y avait avec l'écurie, avec son coéquipier Multi 21, et on le sait que 21 c'est Weber Vettel, vice versa. Vettel c'est déjà dans des grands prix précédents. Il a dit multi 1-2, donc il savait bien, et c'est quand il disait je le savais pas, je l'ai pas entendu, c'est si vous aviez une chaîne à bip là, c'est la bullshit. Puis ça pue au nez, et je pense que on n'aime pas trop.
Ouais. En plus, il y a un côté un peu juste, parce que malgré ça, il gagne, il domine le championnat. C'est toujours un peu agaçant quand même.
Hein? Oui, et moi personnellement, je suis toujours, j'ai toujours aimé le underdog, donc le gars en deuxième place. J'étais hyper content à voir Brown devancer tout le monde, mais quand Barrichello commençait à gagner des points, mais j'étais fan de Barrichello. Ouais. J'aime toujours voir le petit dépasser ses limites, puis c'est ça.
Ah, sinon, sur la course en elle-même de Vettel, c'est vrai que il a été quand même sur un rythme très très impressionnant. Quand même tout dimanche. Ouais. C'est bien simple, on l'a vu, ils ont été 5 dans le tour. C'est que ça arrive quand même pas tout le temps. Et encore 5, Rosberg, il était à 1-10, hein. Donc vu la longueur d'un tour à Montréal, il était pas loin de se prendre un tour.
C'était quoi les points encore entre la première et la deuxième?
Attends, je vais
1605
dire ça.
Contre 1639.
Ok, j'ai presque fait ma job.
tu as défendu le peuple canadien.
Il y a une couple de personnes qui m'ont aidé.
Ah, mais on peut le dire, moi, pour avoir regardé toute la journée, Vettel a tout le temps été deuxième. On peut même dire que l'écart s'est réduit sur la 100. Il y avait plus d'écart entre Alonso et
Vettel. Je pense que les Canadiens qui sont sur Fan F1, comme Fan F1, faut tourner à l'heure française. Hein, la majorité du public français a dormi hier soir. Mais les Canadiens, ils étaient encore devant leur écran. Donc je pense que ce sont les Canadiens qui ont voté en premier et que les Français ont peut-être voté un peu plus aujourd'hui. Et donc, on peut-être effectivement fait remonter un peu plus Vettel derrière le numéro 1.
Le numéro 1, donc vous l'avez compris, c'est donc Alonso, 1639 points. Dino et moi, Dino, on l'a mis deuxième. Et Bert l'a mis premier, évidemment.
Ah, enfin, comme vous.
Mais Alonso, il a gagné 4 places, il a passé à travers de champions. L'équipe était fantastique. Ils ont fait des arrêts de 20.5 et 20.6 secondes parmi les plus vite. Je crois le deuxième et le troisième plus vite de la journée. De loin, il mérite sa place.
Et Ferrari continue d'alterner le bon et le moins bon.
Oui.
Ça fait bien par croire que les Grands Prix impairs leur réussissent bien et que les Grands Prix pairs, il faut qu'ils les oublient. Et vivement, le Nürburgring.
Ouais, mais faut pas s'inquiéter de ça, parce que, enfin, pas s'inquiéter. À part à Monaco, où là, clairement, ils étaient nulle part, auparavant, il y a aussi eu, la malchance, enfin,
la malchance et les mauvaises décisions, là, voilà. C'est vrai que...
C'est pas la voiture ou Alonso qui
est mauvais. C'est l'un des autres qui m'a énervé, là, depuis 10 jours, c'est qu'on s'interroge sur la motivation d'Alonso. On s'interroge sur la fatigue, ça comprend. Mais moi, j'ai quand même lu sur certains sites, des sites plutôt anglophones et plutôt des références, des gens qui osaient parler de motivation du début du déclin d'Alonso et compagnie. Enfin, à un moment donné, j'ai juste envie de dire, faut se calmer, les gars. Il a fait un mauvais Grand Prix à Monaco. Rien ne dit qu'il a pas justement un peu subi ce Grand Prix dès le départ. Part en disant on sera pas bon. Là cette année à Monaco, à Montréal, il a peut-être retenu la leçon en disant faut quand même que j'aille chercher ce qu'il faut chercher. Il a peut-être retrouvé son tempérament de vainqueur. Mais sincèrement, je vois pas en ce début de saison. Je peux dire qu'Alonso fatigue quoi que ce soit. Oui, il est peut-être un peu usé par les années avec Pani. Mais là à dire qu'il est fatigué.
Qui aimerait être aussi fatigué.
Ouais, Après, c'est sûr que psychologiquement, il y a peut-être le côté de dire putain, Vettel, il est encore devant.
Et là, il commence à...
J'ai la voiture.
En plus, voilà, Vettel commence à partir un peu. Ça fait quand même longtemps quand même qu'il essaie et qu'il passe jamais très très loin du titre.
Ouais.
C'est sûr que moralement, c'est pas évident.
C'est-à-dire qu'on arrive aussi maintenant avec Vettel. C'est dès qu'il est devant, on commence à se dire il est devant, c'est bon, c'est mort. On a tellement l'habitude de le voir devant comme Schumacher. On se dit lui avec le cul qu'il a, avec soit il est trop fort, soit il a un cul monstre. On se dit il est devant, on le verra plus jamais. Quoi. Et c'est peut-être ça aussi que ça peut traduire et être justement le témoignage de la domination de Vettel sur la F1 en ce moment, c'est que à la limite même Alonso ça, pour que même Alonso puisse potentiellement se dire ça, oui c'est que Vettel domine outrageusement la Formule 1 depuis 4 ans.
Parfois on entend oui, est-ce qu'on va rentrer dans une ère Vettel? Non, c'est bon, on y est depuis près de 4 ans. Hein.
Oui.
Parce qu'on peut rajouter même l'année d'avant, avant son premier titre. On a rajouté sur la course d'Alonso
Sincèrement, un début de course assez discret, mais un peu à la longue. C'est-à-dire qu'Alonso, il est un peu là, il temporise dans des courses, et aussi parce qu'il sait que la voiture lui permet de temporiser et d'attendre le bon moment. Mais une course de renard, quoi, une course de renard. Et c'est ça, c'est la force d'Alonso, c'est le côté brillant d'Alonso, c'est qu'il est capable, dans la même course, d'être derrière, de temporiser, et en même temps, dès que c'est en l'odeur du sang, de se transformer en Alonso qui va tout casser, de remonter sur Hamilton, d'aller le chercher, de bien travailler son dépassement. Et c'est ce qui était bien ce week-end, c'est que les zones DRS ont été raccourcies cette année.
Ouais, ils ont gardé deux, mais du coup,
il y avait toujours le même système, on peut toujours en discuter, mais elles étaient courtes, donc beaucoup moins décisives. Il y avait quand même un effort à fournir de la part du pilote et de panier. On a vu, même avec des pneus en délicatesse, une meilleure vitesse de pointe d'Hamilton, rendait la tâche un peu plus compliquée. C'est ce qui était agréable quand même, c'est qu'on a aussi eu l'impression de retrouver ces courses il y a quelques années sans le DRS, où, comme le dit très bien Jacques Villeneuve, il faut travailler son dépassement. Et c'est ce qui a été beau ce week-end, notamment avec Alonso, c'est que on l'a vu travailler ce dépassement, prendre le temps, réfléchir, voir les opportunités qui se présentaient à lui, et puis voilà, tenter des trucs et tenter à chaque fois en
sécurité et compagnie. Les dépassements étaient beaux cette semaine, vraiment. Très bien. Alors, juste avant de faire les classements, faut quand même qu'on évoque ce qui s'est passé, hein. Normalement, si vous suivez l'actualité, hein, vous avez été informé, hein. Vous savez, hein, malheureusement, ce Grand Prix a été endeuillé par le décès d'un des commissaires de course. Donc apparemment, il était sur la, c'est au moment où ils ont attaché la Sauber pour la soulever avec la grue. Lui, apparemment, était en hauteur, il a chuté, et malheureusement, la grue lui a roulé dessus. Ouais.
Est-ce que la nouvelle qui a fait une chute, c'est une nouvelle toute récente? Parce que c'est pas la même histoire que moi j'ai lu et que j'ai entendu.
Alors, c'est qu'il aurait fait tomber, là, si j'ai bien compris, il aurait fait tomber son Tokiwuki oui. ou quelque chose dans le genre.
Ah, d'accord.
En le ramassant. Alors, oui. Est-ce qu'il aurait trébuché en le ramassant? Moi, je sais que j'ai lu qu'il aurait trébuché.
Ça, voilà.
Mais est-ce qu'il aurait trébuché ou est-ce que, en le ramassant, on l'a pas vu, on lui a roulé dessus? Mais ce qui n'était pas clair, est-ce que c'est arrivé pendant la...
Non, c'était après.
Bah surtout que l'accident de Gutiérrez a eu lieu tout à la fin. Donc
Oui, et maintenant on sait dans quel virage qu'il était.
Le numéro 2.
C'est ça. C'était le toit était garé à quelque part, puis il le ramenait après la course. D'ailleurs, dans les after race de Sky et de BBC, t'entends l'hélicoptère partir.
Parce qu'il a d'abord été emmené donc au centre médical. Pour ensuite être rapatrié à l'hôpital
du Sacré-Cœur de
Montréal.
Qui est la centre pour les Grands Prix depuis de longues années, puisque Kubica a fait son tour, ou ce que Jaboui a son tour.
Alors j'en profite d'ailleurs pour adresser un troisième petit drapeau à Canapus, et notamment à Jean-Louis Moncey qui insistait sur le caractère dangereux du circuit, notamment sur la grille de départ. J'ai regretté qu'on ne mentionne pas, on a mentionné les accidents notamment d'Olivier Panis qui s'était fracturé les deux jambes, de Robert Kubica, et on a oublié cet accident de 1982 où le jeune Ricardo Paletti, qui avait malheureusement pas de Grand Prix à son actif, s'est tué au moment du départ. C'est un Grand Prix qui est dangereux, et la première preuve de sa dangerosité, c'est que un homme y est mort, un pilote y est mort, et on a revu le cas cette année, même si c'est pas la dangerosité du Grand Prix là qui est à mettre en cause, c'est un accident comme malheureusement ça peut arriver. Mais voilà, je trouvais un peu regrettable de parler de danger sans évoquer le véritable danger, sans remettre en perspective le fait on parle là d'un danger mortel. Y a des gens qui meurent sur ces circuits-là, et c'est ce qui fait aussi le charme de ces circuits-là, c'est que c'est un circuit urbain très rapide, avec des gros accidents, généralement des gros cartons.
Le mur n'est jamais loin.
Le mur est jamais loin, et j'ai regretté que passe un peu sous silence ce décès, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on n'en parlait pas, parce que la fin était peut-être pas heureuse.
Et c'est vrai que pour les commissaires... On a la chance de pouvoir se dire que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'accident mortel chez les pilotes, mais par contre, côté des commissaires, fort heureusement, ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu un, mais voilà, il y en a déjà eu dans le passé,
2000,
même dans les années 2000.
Oui. Et en 2001, en Australie.
En Australie, avec Jacques Villeneuve.
Donc, il fallait qu'on parle quand même un peu et remercier quand même tous ceux qui travaillent et qu'on voit qui même eux risquent leur vie pour pouvoir faire en sorte que les
conflits aient lieu. Et c'est justement ce qui remet en relief, je reviens sur ce point-là que j'ai développé un peu plus tôt, les sanctions prises contre Raikkonen et Ricciardo à la voie descendre. C'est encore une fois, il faut pas oublier, c'est que si on peut permettre à des pilotes de se mettre eux en danger et qu'on peut comprendre et qu'on peut essayer d'être clément quand eux tentent une manœuvre l'un sur l'autre, il faut pas non plus oublier, c'est qu'un accident entre pilotes peut avoir des conséquences, sur les gens qui sont aux abords du circuit, qu'ils y travaillent ou qu'ils soient de simples spectateurs, et qu'il y a donc des zones comme ça stratégiques, et la pit lane en est une, où on doit être intolérant, je dis bien le mot intolérant envers des comportements. Enfin, ils ont rien fait de méchant, Raikkonen et Ricciardo, voilà, ils ont fait leur course, mais on est obligé de les sanctionner derrière, parce que on ne peut pas tolérer ce type de comportement, même s'il est bien intentionné ou justement pas mal intentionné, on ne peut pas ne pas intervenir, parce que on est dans la voie des stands, qu'il y a des gens qui ne sont pas sans protection et que c'est un endroit dangereux.
Absolument. Et on a vu dans les dernières années beaucoup de cas où ce qu'on a des autos qui partent de, on relâche l'auto rapidement et que on a un pilote qui est en train de chevaucher la ligne qui démarque la ligne rapide et la ligne des puits. Puis, comment ça se fait qu'on laisse ça passer avec juste des
reprimandes
ou des pénalités? Absolument. Dès que t'es à côté de quelqu'un dans les lignes des puits, tu dois le savoir que tu t'en vas en arrière, tu lèves du pied et tu tasses.
Moi, je rejoins assez l'opinion exprimée ce week-end par Jacques Villeneuve dans les commentaires sur les pénalités, où il faut effectivement bien faire la distinction entre ce qui relève de l'erreur de pilotage et ce qui relève de quelque chose qui est conscient. Et quand on dit quelque chose qui est conscient, c'est pas forcément de l'ordre du « je vais te foutre dehors ». Ça peut être tout simplement, là on parle effectivement de couper la ligne, c'est « je coupe la ligne parce que j'arrive plus rapidement dans la trajectoire idéale de course ». Oui, mais comme tu coupes la ligne, tu vas constituer un danger pour les pilotes qui sont sur la trajectoire de course, donc tu le fais consciemment. Tu le fais consciemment, donc ça doit être pénalisé. Il faut effectivement être un peu clément contre des fautes qui sont inconscientes ou involontaires, et être par contre sur les fautes qui sont elles conscientes et qui sont inéluctables. Pour le coup, être intransigeant.
D'habitude, ça c'est proche, hein, évidemment, dans ces situations-là. C'est vrai que décéder dans un endroit quand même où on vit sa passion, c'est quand même extrêmement triste. Je vous propose de reprendre l'émission.
Nous n'avons jamais arrêté l'émission.
Et donc, le classement. Fallait qu'on en parle, voilà, c'est normal. Au classement des pilotes, Alonso est premier, 111 points, devant Vettel, 108, Raikkonen, 94, Massa est à 80, pas si loin que ça. Au classement des équipes, Ferrari, 191, Red Bull, 158, Mercedes, 134, Lotus, 119. Dans l'autre classement, Sébastien Vettel à 132 points devant Fernando Alonso, 96. Là, il y a quand même un beau trou, hein, faut bien le dire. Kimi Raikkonen, 88, Hamilton, 77 et Weber, 69. Pas si loin que ça, hein. Chez les constructeurs, Red Bull, 201, Ferrari, 145, Mercedes, 134, Lotus Renault, 114.
Et donc, on va passer au fait marquant, non ?
Oui !
Ah, parce que je suis curieux de la réponse il y a 15 jours.
Bah, déjà, tu peux être content, tu n'as pas reçu zéro vote. Ou tu n'as reçu plus d'un vote. Hein, comme quoi, il n'y a pas que toi qui as voté. Parce que Charlène, elle est de retour à Monaco, a quand même eu 19,51%. T'es heureux ? Dis le PO.
Oui, je suis super heureux.
Parce que les deux premiers sont ex aequo. Tous les deux ont eu 33 votes, 40,24%. Donc, les deux premiers, c'était Perez, jamais 203, et Mercedes gagne, comme prévu. Donc, Dino, c'est à toi.
Sébastien Vettel triomphe sous les huées du public.
Bah, tu es l'invité, je laisse la priorité pour le choix du fait marquant.
Le fait marquant, je dois être avec Alonso. Il a sa tête, il a fait ce qu'il avait à faire.
Et quoi comme
tu
formule?
Mets ça quoi comme formule?
Comme formule.
Bah, comme voilà, tournure de phrase.
Comme choix pour voter.
Alonso qui passe à travers de tout le monde, ce qui devrait passer à travers.
Alonso, le passe-muraille de la F1.
D'accord.
Le passe-muraille des champions.
Oh.
Par ça, contre, il n'y a personne qui va croire que c'est un Canadien ou un Québécois qui a dit ça.
C'est pas plus mal pour toi.
Donc, Alonso, le passe-muraille des champions.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai envie de mettre Di Resta forcé de changer ses pneus. Ouais, tu vas changer.
C'est dit, je veux perdre.
Non, j'essaie de faire un choix un peu différent.
Ouais.
Donc, cette semaine, le sondage, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix du Canada 2013? Vous aurez le choix entre Alonso, le passe-muraille des champions, Di Resta forcé par le règlement de changer ses pneus, ou bien Sébastien Vettel triomphe sous les huées du public. À noter, en cours, merci comme d'habitude tous ceux qui ont voté pour le sondage et qui ont donné leur vote pour le top 10. Justement, vous avez eu un peu moins de temps, donc merci quand même, vu les circonstances, de vos votes. Et on va passer au cours top imposition.
Ouais.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Et Fiji rappelle la question qui était posée il y a 15 jours.
Oui, des questions autobus ou autocar. Hein, puisqu'on vous demandait quel était l'arrêt de bus situé à Monaco entre le virage du Loves et du Portier. Pour être très précis, c'est vraiment dans la descente du Loves, après l'épingle, hein. Il est là, à l'arrêt, là, tout beau, juste à côté de ce grand mur, là, parce que comme on descend, juste avant de tourner à droite, pour le portier. Donc, on peut le trouver facilement, en allant sur le site de la compagnie d'autocars de Monaco, tout bêtement. C'est sur la ligne 1. Et l'arrêt, c'est Spélugue. Spélugue, apparemment, qui veut dire grotte en monégasque. Et d'ailleurs, le quartier, c'est Monte Carlo Spélugue.
Et avons-nous une bonne réponse?
Eh bien, cette semaine, tu vas être content. Enfin, je sais pas si tu vas être content. Puisque nous avons eu une réponse. Qui, je te rassure, est bonne.
Ah, c'est bien. Ça va faire court. On a eu quelqu'un qui est intéressé par la veste depuis Marussia l'an dernier.
C'est Adelin. Mais Adelin, il nous a limite tous les jours. Donc
Adelin, rappelons-le, il gagne une veste depuis Marussia. Alors, il y avait le choix entre soit une veste homme, soit une veste
femme.
Alors,
j'ai regardé la veste femme, en fait, les tailles sont identiques. C'est juste la... Donc voilà, Adelin, tu auras le choix entre la version homme, la version femme, la version garçon, et tu pourras nous indiquer la taille. Mais ne t'inquiète pas, je t'enverrai un mail comme d'habitude. Et donc la question d'Adelin. Alors c'est très drôle parce que là je peux le raconter parce que vous il y a qu'une réponse cette semaine. À l'origine, la question qu'il m'avait envoyée, c'était une phrase à compléter. Jacques Villeneuve est le premier pilote nord-américain à avoir, trois petits points, et sa réponse c'était remporter un titre de champion du monde de Formule 1. C'est pas le cas, donc je vais envoyer un peu.
C'est pas le cas.
En lui disant, tu sais que Phil Hill et Mario Andretti, voilà, c'est pas des tanches, et puis les États-Unis, c'est plus ou moins en Amérique du Nord, tu comprends?
Oh, c'est pas vraiment le Nord-Nord de l'Amérique. Je pense qu'Adelin voulait dire Amérique du Nord,
ah oui,
du Nord.
C'est sûr.
Qui est proche du Nord.
C'est sûr. Voilà. Donc la question de cette semaine, qui vous fera gagner là encore un magnifique cadeau? Parce que vous allez en Grande-Bretagne. Deuxièmement, bon, on sait que là la météo en Europe, en tout cas en France, s'est réchauffée, mais nous ne sommes pas dupes, hein, parce que quand on a eu 6 mois d'hiver, il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas 2 mois de plus. Hein. Donc cette semaine, vous jouez pour un parapluie Williams F1. Un magnifique parapluie bleu et blanc.
Ouais.
Et tu te souviens ce que j'ai dit quand on a choisi le cadeau? J'ai dit, c'est drôle, ça ressemble au logo dans Resident Evil. Mais c'est normal, ça s'appelle Umbrella. Sauf que dans le jeu, c'est rouge et là, c'est bleu. Mais sinon, ça fait pareil.
Je demande aux autorités de me libérer. Monsieur Hollande, si vous m'écoutez, je suis prêt à payer moi-même de ma poche la rançon qu'ils ne demandent pas, mais que je suis prêt à offrir.
Et se réclamer aussi auprès du Premier ministre québécois et du Canadien, ça peut-être marcher cette semaine.
Oui, c'est une femme, je crois, la Première ministre du Québec.
Oui.
Donc, Madame la Première ministre du Québec. Au secours! Ayuto! Help! I need somebody! Help!
Oh non, tu peux la parler en français. Elle va être très contente.
Oui, au secours! J'ai besoin de quelqu'un! Au secours!
Et donc, la question de cette semaine. Attention, écoutez bien. Qui a été le dauphin de Jacques Villeneuve l'année de son sacre?
Peur!
Tu sais que j'y ai pensé plus. Est-ce Flipper? Est-ce quelqu'un d'autre?
Tu sais que t'as de la chance qu'il n'y ait pas d'autre qui ait proposé des questions à Delin. Parce que t'aurais pas gagné avec cette question. Je le dis tout de suite.
Hey, pour nous les Québécois, c'est quoi l'année de son sacre?
Un sacre, l'année, c'est un synonyme de couronnement.
D'accord.
Alors c'est sans doute une expression très française puisque le roi était sacré à la cathédrale de Reims, en fait. Tu sais, c'est le côté droit divin du roi. Voilà. D'où le côté sacré, être sacré. Oui. Et donc c'est un synonyme. Voilà. Quand
okay.
Quand on est nommé quelque part, quand on est, par exemple, quand on devient champion du monde comme ça, c'est un peu un synonyme, quoi.
D'accord.
Et ben c'est tout pour le concours de Papa Zio. Ça aura été rapide cette semaine.
Ah ouais, là sincèrement, parfait. Non, merci Noé qui avait choisi une excellente question.
Alors, est-ce que c'est la question ou est-ce que c'est le cadeau?
Je pense qu'il y a un peu.
Parce que la question n'était pas spécialement super dure.
Non.
Si vous souhaitez répondre à cette question, il nous suffit d'envoyer un mail à concours@savf1.fr avec la réponse à la question, mais aussi une nouvelle question que Dino pourra choisir et peut-être vous gagnerez un magnifique parapluie. On vous rappelle, la semaine prochaine c'est un mag, et donc qui dit mag dit répondeur. Si vous souhaitez nous poser une question, vous avez le mail répondeur@savf1.fr, mais aussi sur le site savf1.fr, le module audio, si vous voulez nous laisser notre magnifique voix. Si vous souhaitez participer au SAV de la F1 à une émission d'après-course, l'adresse mail cette fois-ci c'est contact@savf1.fr. Dino, où en est-on actuellement?
Le prochain Grand Prix, et ce jusqu'à la fin de saison, tout est disponible, tout est ouvert. On a fait la Belgique, on a fait la Suisse, on a fait le Québec, maintenant...
On a fait tous les francophones, enfin, sauf un pays africain.
Oui, voilà, donc voilà, si vous les écoutez, on n'a pas d'idée de qui faire venir, donc...
Dans 3 semaines, parce qu'il y aura une pause de 3 semaines, ce sera le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Est-ce que vous voyez déjà des équipes se distinguer?
Moi, je dis Red Bull.
Moi, je dirais Ferrari. Ferrari, ils étaient bons l'an dernier.
Je suis d'accord que Red Bull sont toujours là. Il y a un incontournable. Peut-être aussi Force India. Verra.
Ils seront chez eux. Ils sont près de Silverstone.
Tout le monde, presque tout le monde.
Ah, mais
sont chez
eux, ils sont encore plus. Ils sont vraiment à Silverstone.
Oui, absolument.
Alors, Zino, on va passer au défi de l'invité, hein.
Oui. Ou 7 choses à faire, si on a 40 euros.
Pour information, 40 euros, c'est 54 dollars canadiens.
Donc, on va commencer pour un petit 3$. On va faire le tour du métro. Donc, métro qui est inspiré du métro de Paris avec ses roues pneumatiques. Mais surtout, on va aller voir les installations d'art qui sont dans chacune des stations. Certains, c'est des murailles. Des fois, c'est des vitrines. Des fois, c'est des sculptures ou des peintures. Donc, on va faire un petit tour là. Deuxième arrêt, on va arrêter au fameux Fairmount Bakery, où ce qu'on va prendre un bagel, fromage à la crème, saumon, capre et oignon, $4.50. Il y a une grosse bataille entre les bagels de Montréal et les bagels de New York, où ce qu'on devrait être l'année prochaine, mais je suis pas mal sûr qu'on va trouver que les nôtres sont de loin meilleurs.
Ben, je dirais plutôt l'année prochaine, quand on aura un New Yorkais dans l'émission. Alors là, l'année prochaine, si on a un New Yorkais dans l'émission, sincèrement, je me mange des couilles de chameau.
Pour un petit 50, on va monter le funiculaire du Stade Olympique. Donc, après 20, 25, 30 ans de construction, il s'est pas effondré encore. Il est toujours en fonction. Fait qu'on va faire un petit tour en haut, voir de quoi que ça a l'air notre
ville. Vous avez fini de le payer, le stade?
Oh non, 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 non.
Ah, c'est bien ce que je pensais.
Mais si on parle des professionnels entre eux, faut savoir que si tu travailles dans le BTP...
Ah non, mais attends, c'est super connu que Montréal a payé des années ces Jeux Olympiques.
Oui, le stade paye plus que tous les autres stades jamais construits pour toutes les autres Olympiques. Par la suite, on va aller au biosphère. Le biosphère, vous demandez, c'est peut-être quoi? Quand vous voyez la grosse dôme géodésique en arrière du circuit, c'est ça, biosphère. Ça a été une construction pour l'Expo 1967. Pour les comptables, ça va coûter $12. C'est une construction de Buckminster Fuller, qui a fait plusieurs constructions géodésiques. Et c'était le pavillon américain lors de l'Expo 1967. Quelque chose que vous savez peut-être pas, c'est que à l'origine, construit pour l'Expo, il était recouvert de plexiglas. Et pendant l'Expo, il a passé au feu. Et on l'a laissé comme ça, mais on a laissé le dôme géodésique avec ses plateformes à l'intérieur que aujourd'hui les plateformes et les bâtisses qui s'y trouvent font le musée du biosphère. Par la suite, on va prendre un petit $10 et on va faire un petit voyage au nord de Montréal. On va aller à une place qui s'appelle le circuit Saint-Jovite. Donc, le circuit qui a accueilli le Grand Prix du Canada en 1968 et 70, qui est toujours en opération. Il est utilisé surtout de la course privée d'ailleurs le Canadian Touring Car Championship qui était une des séries de support à Montréal. C'est une très belle place. J'ai déjà entendu que Jackie Stewart l'a décrit comme le Nürburgring de l'Amérique du Nord. On peut trouver des vidéos sur YouTube avec des superbes vues. C'est très vallonné. D'ailleurs, sur la ligne droite derrière, ils ont dû baisser. Il y a un saut, ils appellent ça le rump, parce qu'il y avait des autos, les Can-Am, qui partaient peut-être par-dessus pied. Donc, on va aller là et passer une excellente journée. C'est une place que je visite fréquemment pour les différentes courses qui vont là. En sixième place, pour $12, on va, c'est pas pour l'événement lui-même, mais on va aller, comme qu'on dit ici, s'acheter une caisse de 12, donc 12 bières, en honneur d'un des premiers commanditaires principaux du Grand Prix de Montréal. On va s'acheter, bien sûr, de l'Alabat 50, mais on va aller voir les Tam Tam au Mont-Royal. Les Tam Tam, c'est un festival qui se fait presque tous les dimanches lors de l'été ici, au pied du Mont-Royal, au monument de Georges-Étienne Cartier. Et t'as tout plein de personnes avec leur drum, avec leur objet de percussion, qui viennent jouer en masse, des fois prendre une labatte, et des fois prendre, si on veut bien faire boucle avec le tout début du podcast, du Hachi, pour avoir du fun pour les dimanches où ce que c'est ensoleillé ici à Montréal. Parce que on aura peut-être prendre plus de consommation ou d'autres consommations que juste de la bonne labatte 50. Et on a les munchies. On ira prendre une queue de castor. Donc, c'est une pâtisserie qui se fait ici, qui est comme une crêpe épaisse sur laquelle qu'on met des confections. Donc, du sucre, du sirop d'érable, ainsi de suite. Et ça, c'est un grand 5$. Et donc, on arrive à 54$ qui se fait 40€.
Bravo. Et alors, je conseille aux gens le sirop d'érable. Alors, en cuisine, même, ça mange le sirop d'érable. Moi, je dis, j'achète.
Mais en effet, le Québec, je pense qu'ils produisent 85% de la production mondiale. Et je sais pas si vous avez entendu aux nouvelles au printemps ou à l'hiver, il y a eu un vol important de sirop d'érable parce que c'est fait en coop. Mm-hmm. Donc, tous les producteurs mettent leur sirop ensemble pour la revente. Et on parle de centaines et de centaines de gallons qui ont été volés.
Ben c'est moi, j'avoue. Fable.
Et je pense qu'on a fait le tour, c'est ça?
Oui, on a fait les 7. Donc bravo, et en plus, alors là, sincèrement, c'est du spécial, parce que là, c'est aller à Montréal, voilà, vous savez, on sait quoi faire pour 40 euros. Bon, il faut aller à Montréal. Il faut juste prévoir l'avion. Mais en dehors de l'avion, vous savez quoi faire de votre journée pour 40 euros.
Allez, on arrive à la fin de cette émission. On vous rappelle, comme d'habitude, que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter avec le hashtag SAVF1. Et n'oubliez pas, on retrouve nos différents comptes Twitter sur la page d'accueil du SAVF1.fr. On vous rappelle, comme d'habitude, que la F1 sur Internet, c'est sur...
Enfin, de faire bien, bien sûr.
Parce que le SAV de la F1,
le
c'est...
Le rythme de podcast, la famille, en cœur...
Et gratuit.
Gratuit. C'est plein de trucs.
Oui, plein de trucs. Merci, Bert, de nous avoir accompagné. Ça a vraiment été un super grand plaisir.
Bienvenue, ça a été un plaisir.
Vu qu'on arrive à la fin de cette session, vous le savez, vous l'attendez.
Oh, merde.
T'as encore...
Non, c'est pas oublié, mais c'est juste qu'à chaque fois, ça me surprend.
Je sais, hein, pourtant, il n'y a pas de surprise.
Oui, non, mais c'est à chaque fois que j'oublie que je dois le faire. Je le prépare, c'est fait. Mais j'oublie pendant le cours de... C'est une émission qui est tellement intéressante que quand j'arrive à cette partie-là, je me dis « Ah merde, je vais tout gâcher ». Et donc, ce week-end, nécessairement, j'étais obligé de faire un programme canadien. Moi-même, je ne vois pas le rapport avec le Grand Prix. Donc, je vous préviens. Et le proverbe qui va clore cette émission est le suivant. Les cornichons ne sont pas tous dans des pots.